Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix d'Inde sur le circuit de Bude. Ce magnifique dimanche, c'était génial puisque pour la première fois, la montre a reculé d'une heure et pourtant vous avez eu 3 heures de sommeil en plus. Et ça quand même, c'est génial, n'est-ce pas Dino?
Ouais, c'est génial, bravo, ouais.
Je sens que c'est pas le grand enthousiasme pour ce Grand Prix, non.
Non? Ah mais Gigi, nous ne sommes pas seuls.
Oui.
Mais qui c'est que là?
Ben c'est Jean-François.
Oh c'est génial,
ah, Jean-François, comment ça va? Enchanté Jean-François.
Bonsoir à tous.
Bah c'est pas toi qui étais prévu à la base. On va annuler l'autre, on va le garder toi, hein. T'es le premier arrivé, premier servi. Hein.
D'accord, merci. Merci de votre accueil.
Bah bonjour et bienvenue dans le service après-vente de la F1.
D'accord.
Alors Shinji,
oui.
Qu'avez-vous pensé de ce week-end? Je vais tout piquer.
Mais écoute, je pourrais dire que le dernier hors-série de IG Magazine est très très bien. Et, hein, il est sur l'histoire de Nintendo d'ailleurs, hein, si ça vous a intéressé.
Edith Jordan Magazine.
Non, voilà. C'était sur l'histoire de Nintendo. Et je vous en parle parce que je l'ai lu pendant le Grand Prix. Et on y apprend plein de trucs vachement intéressants.
Non, moi j'ai regardé le Grand Prix en prenant des notes. Hein. J'ai quand même été studieux pour ça quand même. J'ai regardé le Grand Prix jusqu'au bout. C'est vrai que c'est chiant, mais c'est comme les du film que tu revois, tu sais la fin, mais bon, t'es content de le revoir. C'est un petit peu ça en ce moment, hein, un petit peu.
Oui. Hein? Merci Sébastien.
Oui, c'est pas Jason Bourne, hein, c'est Sébastien Vettel.
Waouh, c'est. Vous vous rappelez ce temps il y a si longtemps où les courses étaient passionnantes, on se dit, ah, mais qui va gagner cette semaine? C'était il y a quoi? 4
oui,
mois.
Oui.
Non mais là c'est encore pire, c'est-à-dire que encore on peut dire en 2011, bon, il y avait un mec qui dominait, on connaissait la fin de la course, mais encore les courses étaient intéressantes. Là, même les dernières courses, que ce soit la Corée ou le Japon, c'était chiant dans le résultat, mais il y avait quand même eu des choses intéressantes. Là, il y a rien eu. C'est-à-dire que pour au point où Shinji, j'étais lu un magazine pendant le truc et où moi j'ai fait tout sauf regarder le Grand Prix vers la fin, c'est qu'à un moment donné quand même, il y avait un truc qui allait pas dans le Grand Prix,
non.
Il y avait pas de stratégie, il y avait rien dans
le
Grand Prix
moins
pour
de poussière.
Ce truc, quoi.
Ça au moins c'était bien.
Ah, je suis pas si sûr, hein.
Alors, il y en avait, mais moins que l'an dernier.
D'accord. Alors moi, je me suis un petit peu concentré sur les trucs techniques. Par exemple, j'ai trouvé que la Lotus de Raikkonen avait une 7e très très courte. Il n'avait pas à doubler Massa. J'ai pas compris pourquoi. Alors est-ce que c'est un problème de réglage de boîte?
C'est eux qui sont plantés. Enfin, c'est Raikkonen lui-même qui a reconnu qu'il s'était planté. Mais je pense que nous y reviendrons, Shinji.
Oui.
Et je pense,
voilà.
Parce qu'en attendant, Shinji, qu'est-ce que c'est? C'est l'heure, tu le sais. Oh oui, tu sais, tu aimes ça, Shinji.
Oui.
Je sais que tu aimes ça.
Parce
Shinji.
Qu'on était quelle date dimanche, Dino?
Un dimanche.
C'était il y a 2 jours.
C'était un 27, long dimanche.
27.
Pas de finir ça, mais... Nous sommes le 28. Nous étions le 28. Ah, Dino, quelle question tu te poses puisque tu as l'intention de piquer tous les lancements ce soir?
Ah, tu me prends pour mieux.
Je
te dis, que s'est-il donc passé un 28 octobre, mais pas en dehors de la Formule 1?
Bien, nous allons le voir tout de suite.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait mérite.
Et messieurs,
oui,
le chiffre de jour est le chiffre 6100.
C'est le nombre d'heures qu'on aurait cru qu'il s'était écoulé pendant le Grand Prix d'Inde?
Non, car le chiffre exact est 43804.
Ah, c'est ce qui me semblait.
Alors, est-ce que c'est une mesure?
C'est une mesure.
Ah.
Alors, métrique?
Oui.
C'est pas le saut de Félix von Kattner? Non, c'est pas ça, non.
Oh, c'est encore plus. C'est pas métrique, c'est pas une distance.
Une mesure de temps?
Non.
Une mesure de poids?
Non.
Une mesure de volume?
Non.
Une mesure en degrés?
Non.
Une mesure.
Il y a des mètres, mais c'est pas une distance.
Il y a des mètres et c'est pas une.
En surface.
C'est une surface, voilà.
Donc c'est 6100 mètres carrés.
Exactement.
C'est la superficie de l'usine McLaren? Non, c'est pas ça. En Angleterre.
Ça n'a aucun rapport.
Ça n'a jamais de rapport.
Ah merde.
Sache-le, faut, voilà.
Bien que, il y a un rapport, mais extrêmement capillotracté. Vous le trouverez pas.
Ça sent le sponsor, en tout cas, c'est pas la peine de chercher.
Ouais.
Ah, c'est pas le prix d'une montre qui a sorti Audemars Piguet? Une montre
c'est
du série.
Jean-François, c'est une surface. Une montre ne peut pas coûter une surface. À
moins
que tu fasses du
troc. Monsieur, je voudrais cette montre. Est-ce que je peux vous donner
6000
mètres carrés?
Bah, si tu veux l'échanger ou le troquer, oui, tu peux le faire.
C'est possible, mais non.
C'est une surface.
C'est une surface sur la Terre.
Sur la Terre.
En Europe?
Non.
Aux États-Unis ?
Aux États-Unis.
La surface de la Maison Blanche.
Non, enfin, je sais pas. C'est pas ce qui nous concerne.
La surface du World Trade Center.
Je ne sais pas, mais c'est pas ce qui nous concerne. Mais
c'est la surface d'un monument.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Non, on peut pas appeler ça un monument.
Ah.
C'est pas lié à un parc d'attractions, par exemple.
Non.
Un circuit ?
Non.
Est-ce que c'est lié à des studios de cinéma ?
Non.
Ah, est-ce que c'est lié au cinéma ? Non.
Non.
Juste pour avoir une idée de la grandeur, c'est 6100 km carrés ?
Non, mètres carrés.
Mètres carrés.
Que quand même...
Donc ça fait la maison de Bernie Clouston à peu près.
Voilà, quelque chose dans le
jeu. Ou d'Hervé Guémard, on sait. Enfin,
voilà.
Alors est-ce que c'est...
Mais c'est une maison.
C'est une maison.
C'est une maison.
Une belle maison.
D'une célébrité ?
On peut dire que c'est une célébrité.
Mais qui existe, qui est réelle.
Non, je vais pas être méchant. Non, enfin, oui, elle est réelle. À moins que Mickey ait une maison de 6100 mètres carrés, mais dans ce cas-là, Walt Disney était très bizarre.
C'est la maison de Mickey ?
C'était pas la maison de Mickey.
Maison réelle. Mais de quelqu'un d'irréel.
Est-ce que c'est réel. C'est pas une maison.
Ah, c'est quelqu'un de réel.
Oui. Jean-François ?
Oui, j'allais dire, c'est lié au cinéma. C'est pas une maison de décor de cinéma ou quelque chose.
Non.
Est-ce que c'est la maison d'un réalisateur de cinéma ?
Non.
D'un chanteur ?
Non.
D'un auteur ?
Non.
Est-ce que c'est pas la maison de Bill Gates ?
C'est la maison de Bill Gates.
Yes.
Oh la vache. Mais comment tu sors ça, toi ?
Bah, je sais pas. C'est juste une question de raisonnement. J'ai dit 6100 mètres carrés. Tu disais qu'il existait. C'était pas le cinéma. Alors je pensais plutôt à le mec de Facebook aussi, ou plutôt ce mec de Bill Gates, quoi.
Parce qu'en effet, bon, pour avoir une baraque de 6100 mètres carrés, faut quand même brasser pas mal de pognon.
Ça, c'est... Non, c'est pas ça. Mais je crois qu'il a mis beaucoup de temps à la construire. Hein. Je me demande s'il est encore en travaux sa maison.
Ah, exactement. Parce que alors, faut savoir que c'était l'anniversaire de Bill Gates.
Quand hier ou à ce dimanche, d'accord.
Voilà, il a fêté ses 57 ans. Alors, c'est vrai que on aurait pu parler de Microsoft, de Windows, de sa fondation et de ça. Et puis je suis tombé sur sa maison. Faut quand même savoir que sa maison a un article sur Wikipédia.
Ah d'accord.
Est-ce qu'on sait combien il y a de fenêtres dans la maison de Bill Gates ?
Mais je peux vous dire que son surnom c'est Xanadu 2.0.
Comme la maison dans Citizen Kane.
Exactement, c'est en référence à ça. Il a mis 7 ans à la construire. Elle a coûté 63 millions de dollars. Elle est estimée à une valeur de 147 millions de dollars et demi. Et il paye à peu près 1 million de dollars de taxes par an.
Oh, pour lui, c'est une brindille pour lui, 1 million de dollars.
Oui, c'est une brindille. Et d'après vous, qu'est-ce qu'il y a dans la maison de Bill Gates ?
Les chiottes de Bill Gates.
Il y a des chiottes. Il y a des chiottes.
En or ?
La salle de bain de Bill Gates.
En or ? Des chiottes en or, non,
c'est pas ça. Combien il y a de salles de bain ?
11.
Il y en a 8.
Ah, comme Windows.
Oh, bravo !
Il y a autant de chiottes que de versions Windows.
Et tu sais quoi ? Il y a 7 chambres à coucher, comme Windows.
Waouh.
Et il y a une salle à manger Vista, non, c'est ça, non ?
Il y a une salle de réception de 93 mètres carrés.
Hein, 93 mètres carrés ?
Qui peut accueillir 120 personnes.
C'est petit, oui.
C'est relativement petit, c'est vrai.
Quand tu compares la baraque... Mais soyons clairs, quand tu dis 6100 mètres carrés...
C'est avec le terrain ?
La maison ou le terrain ?
Apparemment, c'est tout le terrain, quand même. Faut le
dire. Ah, d'accord.
Ouais, c'est tout un complexe. C'est ça qui est génial. C'est plus qu'une maison, c'est un complexe, le truc.
D'accord.
D'après vous, le garage, il peut accueillir combien de voitures ? Sachant que c'est Bill Gates, hein. C'est pas spécialement un super fan de bagnole.
5 voitures ?
Ah, 10.
Oh,
dizaine.
Quand même, d'accord.
Voilà.
Je suis un petit fan.
Voilà, c'est pour ça. Il y a plein d'autres trucs, d'après vous. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans une maison de Bill Gates ?
Bah, je pense que tout doit être automatisé, relié avec des fibres partout. Il doit être un réseau interne.
Exactement. Hein, c'est-à-dire que la personne lambda a un ordinateur. Non, lui, il a une salle informatique.
Hein. Je veux bien savoir le nombre de serveurs qu'il doit avoir.
Faut savoir que les invités, ils reçoivent un badge, un petit badge, hein, qu'ils peuvent programmer hein, quand ils visitent chez Bill Gates. Et après, quand tu rentres dans une salle, et ben la salle, la luminosité, la température, tout s'adapte suivant les paramètres de la personne qui rentre dans la salle.
Et si t'es deux à rentrer et que tes paramètres sont totalement différents.
Je me suis posé la question. Je ne sais pas, mais c'est vrai. Comment tu fais dans ces cas-là?
Ça, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas comment ça marche.
Tu fais un mélange.
L'histoire ne dit pas si tout ne tourne pas sous Linux.
Ah. Ça sera intéressant.
Ou sous Mac OS X, hein, je ne sais pas.
Bon, surtout, c'est, ça serait de savoir c'est qu'est-ce qu'il fait quand ça plante.
Oui.
Bah, parce qu'on sait très bien, c'est la maison du fondateur de Windows. À un moment donné, son système va forcément planter. C'est obligé.
Non, non, mais
qu'est-ce qui se passe quand ça plante?
Il rompt sa maison.
Bah, je pense qu'il a tout prévu. Il a un système de. Moi, je travaille dans l'informatique, donc je pense qu'il a un système de mirroring, hein, ou bien un système de backup qui prend directement la suite, quoi. Possible.
Ouais, c'est ce que je pense aussi.
Oui. D'après vous, qu'est-ce qu'il a d'autre dans sa baraque?
Une grosse salle de jeu avec des flippers, des vieux flippers, un vieux jukebox. Ah. Hein.
Alors, pour voir ses films, il a directement un cinoche.
Voilà. ça.
Et si le cinoche, ça l'emmerde, il y a un théâtre.
Ah oui, d'accord.
Ah, et si jamais le théâtre, ça l'emmerde et qu'il veut lire un bouquin, pas tout, hein.
Il y a une bibliothèque.
Il a une bibliothèque.
Il a une carte, il a un abonnement à sa bibliothèque. Hein,
écoute, je sais pas, mais en tout cas, c'est une bibliothèque avec, tu sais, c'est les bibliothèques un peu municipales qu'on voit dans les séries américaines, tu sais, avec une coupole.
Ouais.
Ah oui, oui, d'accord, oui, je vois.
Tu vois, le truc pas du très commun.
Oui, tout le monde a ça. Voilà,
sa salle de gym, parce qu'il a une salle de gym. C'est vrai que ça se voit pas trop quand on voit Bill Gates, mais il a une salle de gym. D'après vous, quelle taille elle fait?
Je sais pas, 150 mètres carrés.
Ah, ouais. C'est trop peu. C'est 230 mètres carrés.
D'accord.
Mais il fait quoi dedans?
Je sais pas. Il a aussi un cours de tennis.
Bon, oui, interne.
À l'extérieur ou à l'intérieur?
Ah, je ne sais pas. Mais il a un cours de tennis. Possible que ce soit pas. Il a un green.
C'est de la terre battue? C'est de l'air?
Il a un green de golf.
D'accord.
C'est pas un gros green quand même.
Il a pas une piscine intérieure, extérieure, je pense?
Si, il a une piscine de 5 mètres sur 18 avec un système audio sous l'eau.
Ah, ça, c'est sympa, ça.
C'est cool, ça. Et ça, c'est cool, quand même. Hein.
Par contre, le système audio, il diffuse que les musiques Windows.
Surtout quand tu startes le Windows. C'est...
Et donc, il a aussi une rivière artificielle, mais ça, c'est commun. Hein,
oui.
Et un garage à bateau. Parce que, bien évidemment, la baraque est près d'un lac.
D'accord.
Par des peinards.
Et il a un grand lac. S'il a des bateaux, c'est...
Oui, il est près du lac Washington. Ouais, c'est ça. Près de Seattle, hein, puisqu'il est de Seattle. Et comme Microsoft, c'est bien évidemment, c'est connu, c'est sur Seattle.
D'accord.
Donc voilà, c'est quand même un des rares types, je vous jure. Il y a un article Wikipédia sur sa baraque.
Ouais, c'est quand même fort. Je voulais savoir qui l'a écrit. C'est lui, c'est quelqu'un d'autre, c'est l'architecte qui a construit la maison.
Alors, je ne sais pas s'il est l'architecte, mais en tout cas, en effet, tout le côté domotique et tout le côté, en effet, informatique, ça, par contre, il s'y est beaucoup investi. Hein.
D'accord.
Faire vraiment, voilà, sa baraque de l'an 2000. Attention, hein, pas de Windows 2000, de l'an 2000.
Alors que la maison du fondateur d'Apple, elle est toute petite.
Oui.
Aujourd'hui, c'est 2-3 mètres carrés.
De Tim Cook, hein. C'est Tim
Cook. Non, l'autre.
Ah, c'est lui qui est mort.
Oui, voilà.
Voilà.
Non, et c'est lui.
Enfin, sa maison ne fait que 2-3 mètres carrés.
Et c'est lui qui nous manque, c'est ça.
Ils viennent de dévoiler quand même le yacht qu'il avait fait construire et le yacht de Steve Jobs. Joli truc.
J'ai vu l'image.
C'est con, il en aura pas profité.
Hein, j'aurais pu prendre aussi comme chiffre 66 milliards, hein, c'est sa fortune estimée, puisqu'il n'est en que deuxième.
Et le premier, c'est qui?
Oui, mais il donne beaucoup. Enfin, il y a quelques années, il a donné quasiment l'entièreté
de sa fortune. Pendant longtemps, en effet, il a été personne la plus riche. Aujourd'hui, il est deuxième derrière le fameux Carlos Slim. Et en effet, il a donné énormément de sa fortune. Et il a dit qu'il léguerait 95% de sa fortune à sa fondation.
D'accord.
95%. Qu'est-ce qu'on va faire des 5%? T'imagines le fils? Ah, il nous laisse que 5%
d'enfants.
Ouais, ça fait quand même 5 milliards.
Voilà. Pour ses 3 gamins. Il a 3 gamins.
D'accord.
Sachant qu'il a quand même cumulé plus de 100 milliards pour sa fondation, hein, quand même.
Mais je crois que dans ce club-là, il y a Warren Buffett aussi qui a donné à peu près 95% de sa fortune aussi.
Ah, il a milité justement auprès des je vais même pas dire des hyper riches, des ultra riches, pour dire oui, vous avez plein de pognon, vous pouvez filer 90%, de toute façon, il vous restera encore plusieurs milliards. Et en effet, ouais, Warren Buffett, pareil, il a dit qu'il léguerait 90% peut-être aux œuvres. Voilà.
Et est-ce qu'on sait s'il soutient un candidat aux élections présidentielles américaines?
Non, en tout cas, je n'ai pas trouvé. C'est vrai, c'est difficile à estimer ce qui serait plutôt du genre démocrate ou républicain.
C'est celui qui va relancer la consommation, donc acheter des ordinateurs, donc Windows, quoi. C'est bon.
C'est vrai. Et en effet, faut citer, et ça fait une transition vers la F1. C'est que il y avait un autre monsieur B qui a fêté son anniversaire. Bon, lui, c'était ses 82 ans.
Hein. Ah, c'est monsieur Eclé, monsieur Bernie.
Eh oui, c'est monsieur Bernie. Alors lui qui est un petit joueur puisqu'il ne possède que 2,8 milliards de dollars, il n'est que 245e fortune mondiale.
D'accord. OK. Ouais, ça crée monsieur Bernie.
Qui anecdote a roulé en F1.
Ah bon?
Oui.
Alors, c'est un bien grand mot, rouler en F1.
Il est, ouais, il a fait une séance, il a, je sais, je crois.
Il a acheté des Connaught en 1958 et il a participé, que je me trompe pas, c'était celui de Monaco. Ouais, c'est ça, au Grand Prix de Monaco 58, il a pas fait de temps.
D'accord.
Et ensuite, il a pas participé au Grand Prix de Grande-Bretagne, mais en tant qu'essayeur. D'accord. Comme quoi, donc, la prochaine fois que vous vous foutez de la gueule d'un pilote parce qu'il est nul, qu'il est que troisième pilote, qu'il fait pas de temps, rappelez-vous peut-être que dans 60 ans, ce type pèsera 4 milliards de dollars.
D'accord.
Plus.
D'accord. Mais c'est quand même lui qui a fait quand même fructifier la F1, quand même. Faut prendre un bon tact.
Oh, oui. Et sinon, côté Grand Prix, parce que bon, côté pilote, il n'y a pas non plus de grand nom. Eh bien, en 1951, c'était le Grand Prix d'Espagne. Et c'est ce jour-là que Juan Manuel Fangio a quand même gagné son premier titre de champion du monde.
Ah, d'accord.
À l'époque, okay. C'était à Pedralbes. C'est à Madrid ou Barcelone, Pedralbes? Je ne me souviens plus. Tu te souviens, Dino?
Je sais pas du tout,
non. Non, c'est pas... Non, Pedralbes, c'est pas le parc, là. C'est pas...
Non, mais non, c'est le fameux circuit où l'avenue... Enfin, la ligne droite principale, c'est l'avenue du Général Franco.
Ouais.
D'accord. Qui a été débaptisé, maintenant, non, c'est ça?
Espérons-le. Un Grand Prix qui faisait 442 km. Ouh. Espérons qu'il n'était pas aussi chiant que le Grand Prix d'Inde 2010.
Il y a peut-être un petit peu plus de poussière, par contre, peut-être.
Donc voilà, c'était tout pour cet éphémérite. Vous avez été très très bon sur l'éphémérite aujourd'hui.
Non, il faut rendre à Jean-François ce qui appartient à Jean-François. C'est Jean-François qui a été bon.
Merci, messieurs.
De Dino, c'est à toi. Et plutôt, c'est l'heure de l'invité, le quart d'heure de l'invité.
Oui, c'est même l'heure de gloire de l'invité, je dirais.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'heure de gloire de l'invité.
Alors Jean-François, tu le sais, ça fait combien de temps que tu nous écoutes ?
Écoutez, ça va faire à peu près un an que je vous écoute, parce que je cherchais des blogs, j'ai regardé sur mon iTunes préféré, regardé des podcasts sur la Formule 1. Alors j'ai trouvé un podcast sur ESPN. Alors, je sais pas si vous le podcastez celui-là.
Non, on ne podcast que le SAV de la F1.
D'accord, vous êtes exclusif. Et après, j'ai trouvé le SAV de la F1 et j'ai trouvé votre ton complètement décalé à d'autres commentateurs. Donc, je vous suis religieusement depuis une bonne année. Voilà.
Ah, la meilleure année en plus.
Voilà.
Et donc, tu le sais, hein, cette année, nous avons décidé de museler Shinji parce que il parle beaucoup trop. Et donc, nous avons décidé de vous consacrer à vous, chers invités, et tu es le 17e. Non. Ouais, le 17e.
D'accord.
17e invité différent en autant de Grand Prix. C'est-à-dire, on est plus fort que la Formule 1. tu es le 17e invité qui va avoir le droit à son heure de gloire. C'est-à-dire, on va t'interroger sur l'actu, sur ce que tu aimes dans la F1, etc. Et ça commence par le
pour pas pour.
Le pour pas pour. Alors je rappelle le pour pas pour, 10 questions plus ou moins pertinentes. C'est quoi que j'ai mis cette semaine plus ou moins pertinente donc.
Mais c'est plus. Et c'est plus ou moins.
Certaines qui soulèvent des débats. Cette semaine, il y a eu pire. Mais j'estime que c'est un débat qui est très important. Après, ça se discutera peut-être, mais c'est un débat qui est important. Donc voilà. Donc il y a 10 thèmes. À chaque fois, tu nous dis pour ou pas pour. Tu n'as pas le droit de dire contre, sinon t'as un gage.
D'accord.
Bon, généralement, on donne pas de gage, mais quand même, t'as un gage comme ça pour la forme. Donc à la fin tu pourras revenir sur 3 sujets de ton choix histoire de les approfondir.
D'accord.
Puis si t'es rapide t'auras peut-être même un 4e, mais vraiment si t'es rapide.
D'accord.
Alors attention, quand tu es prêt tu me le dis et on commence.
Je le mets sur le buzzer, je suis prêt.
Pour ou pas pour Neeran Kartikeyan pilote Force India en 2013?
Pour.
Pour ou pas pour qu'on kidnappe Kimi Raikkonen mais pour de vrai?
Pas pour.
Pour ou pas pour le budget plafonné à 150 millions d'euros?
Pas pour.
Pour ou pas pour le lapin à la moutarde?
Pour.
Ah. Pour ou pas pour le retour d'Adrien Sutil?
Pas pour.
Pour ou pas pour les essais jeunes pilotes d'Abu Dhabi?
Pour.
Pour ou pas pour le retour du Grand Prix de France en 2013?
Pour.
Pour ou pas pour la Formule 1 sur Canal+ en 2013?
Pas pour.
Pour ou pas pour que McLaren change de motoriste?
Pas pour.
Et enfin, pour ou pas pour Kamui Kobayashi?
Pour.
Et ça nous fait un total donc de 5 pour 5 pas pour.
Voilà.
Donc à noter que tu n'es pas pour qu'on kidnappe pour de vrai. Kimi Räikkönen. Tu n'es pas pour le budget plafond à 150 millions d'euros. Tu n'es pas pour le retour d'Adrien Sutil. Tu n'es pas pour la Formule 1 sur Canal Plus en 2013. Et tu n'es pas pour McLaren qui change de motoriste.
Alors moi, je vais peut-être approfondir le Grand Prix de France en 2013. Je sais pas si j'ai vu des news tourner comme quoi le directeur du Grand Prix de France voulait inviter un sponsor privé qui travaillait dans l'événementiel automobile pour pouvoir boucler son budget, pour pouvoir le mettre dans le calendrier 2013, sachant que Bernie Ecclestone était d'accord. J'ai vu des Twitter tourner comme qu'il était d'accord pour... il était prêt à signer pour avoir un Grand Prix de France en 2013.
Oui. Mais en fait, voilà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un Grand Prix de France sans soutien des Français, c'est-à-dire qu'il y avait eu des projets de candidature d'un Grand Prix de France, oui, soutenus par le, enfin, qui ont été validés par la ministre des Sports et la fédération. Mm-hmm. Il n'y en a aucun qui a été retenu. Et le Castellet avait mis déjà en marche un truc totalement financé par des privés qu'ils auraient donc proposé à Bernie Ecclestone et dont Bernie Ecclestone serait sur l'idée d'accord.
D'accord.
On connaît très bien Bernie, il est d'accord sur le fond.
Oui.
Après, c'est sur la forme qu'il faut s'entendre.
Alors j'étais contre la Formule 1 sur Canal. Alors j'étais pour et pas pour. Alors c'est un peu différent, sachant comme est-ce que ça va avoir de la valeur ajoutée ou au niveau déjà des commentaires et aussi j'irais des plus techniques, ce qu'ils peuvent nous apporter. On sait leurs compétences pour filmer des matchs de foot et des matchs de rugby. Je pense que cette compétence va être mise en place pour filmer la Formule 1, ou c'est entre guillemets une réalisation mondiale. Alors est-ce qu'ils vont nous faire des à côté en plus, des magazines en plus?
Ah, pour vous, ça ne peut être que sur les à côté, hein, puisque la réalisation.
Voilà. Voilà. Donc.
Sauf au Japon.
Non, même au Japon.
Ah, même au Japon maintenant.
Je sais pas si t'as remarqué, mais cette année, il y avait plus tous les panneaux Fuji TV.
Ah, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai.
Donc, ils diffusent toujours, mais ils ne font plus la réalisation.
Ah, ils sont que diffuseurs.
Ouais.
Ah, d'accord.
C'est pour ça que c'est mal réalisé.
Voilà.
Non mais c'est vrai, il faut dire ce qu'il y a, c'est qu'à une époque il y avait une sorte de concurrence entre tous les réalisateurs et donc fallait soigner la réalisation. T'avais les Français qui voulaient bien réaliser, donc du coup ça motivait les Italiens, les Anglais, eux aussi à bien réaliser. Mmh. Et là le problème c'est que c'est tout le temps le même, donc il a pas besoin de faire d'efforts, il est tout seul.
Ce qui signifie aussi que paradoxalement on n'a pas beaucoup vu Kami Kobayashi au Grand Prix du Japon, parce que si ça avait été Fuji TV, je vous dis pas le nombre de minutes qu'on l'aurait vu à l'écran.
Oui, c'est ça que ça m'a étonné de pas trop le voir à la télé, surtout.
T'imagines ce qu'on aurait pu voir Kartikeyan ce week-end? Ah, quoi qu'on l'a vu au début. Ça m'a fait plaisir. J'étais content. J'ai dit, tiens, il nous montre Kartikeyan, la vue du casque. Bon, ça se voit que c'est une HRT parce que l'image était pas très nette, hein. C'est, tu sens que c'est des vieilles caméras qu'on servit, tu vois. Enfin, on lui dit, voilà.
Je sens une petite pointe d'ironie, monsieur.
Non, pas du tout. Qu'est-ce qui te fait dire ça?
Moi, je sais pas, c'est peut-être le ton, je ne sais pas.
Oh, tu surinterprètes.
Puis je voulais revenir sur le plafonnement des budgets à 150 millions d'euros. Alors moi, je vais vous retourner, j'ai la question, vous êtes pour ou contre, vous, ou pas pour le plafonnement des budgets?
Bah, 150 millions, déjà, ça paraît très élevé, c'est-à-dire que... C'est haut, quoi. C'est-à-dire que pour les, comme je sais plus qui le disait, pour les petites équipes, 150 millions, c'est deux fois leur budget.
Oui. Mais en même temps, faut regarder que les dernières estimations pour 2011, c'est 300 millions de dépensés par Red Bull. C'est-à-dire, grosso modo, ce qu'on propose, c'est pas d'imposer aux petites équipes d'avoir un budget de 150 millions.
Oui, bien sûr.
Mais c'est ne serait-ce déjà de dire, bon, bah, si Red Bull ne pouvait avoir que 3 fois au lieu de 6 fois le budget de HRT, ça permettrait peut-être à HRT de faire quelques progrès.
Ouais, imaginez la même formule avec le PSG, quoi. Vous voyez, c'est à peu près la même chose.
Ah oui, bah oui.
Oh merde, je peux pas avoir Zlatan? Ah non, non, monsieur, non, c'est pas possible.
Après, le problème, c'est qu'est-ce qu'on met derrière les 150 millions? A priori, je pense que les salaires des pilotes seraient pas dedans. Et puis, il y a toujours le questionnement entre les équipes qui ont des constructeurs derrière eux, qui peuvent externaliser certaines choses et pas les autres.
Mmh. Et surtout, qui vérifie?
Oui, qui vérifie?
Moi, je ferais vérifier ça par l'UCI.
Bon, ils sont tranquilles.
Parce que, je sais pas, moi, je les sens très fiables, l'UCI.
Pendant 7 ans, c'est ça?
Pendant 7 ans.
Non, mais je sais pas, parce que il y a quand même, entre guillemets, des écuries satellites, avec Toro Rosso et Ferrari. Est-ce que, bon, entre guillemets, ils peuvent se déporter sur d'autres écuries, Ferrari, par exemple, pour pouvoir faire peut-être des avancées sur leur Formule 1.
C'est ça aussi, c'est les fournisseurs et compagnie, enfin les partenaires techniques, est-ce qu'on compte dedans dans le budget?
Je pense que là, il y a tout un. Avant de balancer cette mesure, je pense qu'il y a tout un contour à dire. Bah, ça en prend, ça en prend pas. Qu'est-ce qu'on fait des motoristes? Est-ce qu'on les laisse un petit peu de côté et c'est eux qui font leur sauce? Voilà quoi. Alors moi, j'étais aussi pour ne pas kidnapper Monsieur Raikkonen. On a besoin de lui en Formule 1, moi je dis, des pilotes comme ça. Non?
Vivement l'an prochain.
Voilà. qui est une meilleure voiture et qui reste à peut-être avec Grosjean. Alors je sais pas si on a des news sur le contrat de Grosjean. Il a pas été signé. Il le laisse un peu dans l'expectative.
Bah, ils ont déclaré il y a pas longtemps qu'ils attendaient, grosso modo, ils attendent la FIA. Donc, grosso modo, ils attendent la fin de saison pour savoir si, s'il va refaire des conneries et s'il va pas y avoir des sanctions de la FIA derrière.
D'accord. D'accord. Mais moi je suis pour Raikkonen parce que j'étais un peu pour les pilotes finlandais comme Häkkinen par exemple ou Raikkonen qui apporte un peu plus de peps dans la Formule 1 en ce moment avec Alonso par exemple,
hein. Mais moi Raikkonen, qu'est-ce qu'il apporte exactement vraiment à la Formule 1? En dehors du pilotage et compagnie, bon, là-dessus, c'est un grand champion, il n'y a rien à dire, mais qu'est-ce qu'il apporte vraiment à la Formule 1 quand vous lisez ses interviews? Enfin, moi, je suis désolé.
C'est d'une platitude.
Mais c'est d'une platitude qui est absolument,
Il y a
certes le côté fun et le côté un peu je m'en fous qui est effectivement, mais concrètement, qu'est-ce qu'il apporte? Pour moi, Kimi Raikkonen, il apporte rien si ce n'est effectivement ce caractère, ce personnage, parce que c'est un personnage qui est du mec, je m'en fous de la Formule 1, je m'en fous de ce qu'il y a autour. Mais j'ai pas non plus l'impression qu'il apporte énormément à la Formule 1.
Bah, c'est-à-dire qu'il contrebalance un petit peu le côté lisse de la Formule 1. Il contrebalance les photos d'Alonso avec sa copine, il contrebalance Hamilton avec sa copine. Lui, il est un peu... Moi, il me fait penser, vous voyez, moi, j'ai pas mal joué au tennis, j'étais vraiment dans le tennis, il me fait penser un peu à McEnroe. C'est un peu le vilain petit canard qui vient bousculer un peu la hiérarchie. Moi, je le vois comme un peu le McEnroe de la Formule 1, quoi.
Non, mais encore, McEnroe, il poussait des coups de gueule, il était de mauvaise foi et compagnie. Enfin, il y avait un vrai personnage. Là, Kimi Raikkonen, c'est juste le pilote qui est sur la piste, il est très propre et tout, il fait pas de vagues. Mm-hmm. Et il fait pas de vagues non plus à l'extérieur. Donc, voilà, j'ai plutôt l'impression, enfin, autant McEnroe, t'es soit fan, soit pas fan.
Moi, j'étais fan absolu, je vous le dis.
Non, il avait ses détracteurs. Autant Kimi, tu peux pas avoir de détracteurs de Kimi Raikkonen. De toute façon, il donne rien pour vraiment avoir des détracteurs. C'est-à-dire qu'il est à la fois sur la piste, on va dire que c'est un mec qui vend chèrement sa peau, mais en même temps, c'est pas le mec qui va à l'extrême, c'est pas le mec qui va pousser les autres dehors. Mmh. Et en dehors, il fait son business, mais il est dans la communication comme tout le monde, mais il communique pas en fait. Donc...
Ou peu.
Ouais, moi, à la limite, tu vois, je préférais que Kimi Raikkonen, il soit vraiment qu'il se lâche, du coup, qu'il tape un peu plus sur la F1, etc. Sauf, finalement, il ne fait que faire ce que font les autres, à la différence des autres, c'est-à-dire que là où les autres disent ce qu'ils ne pensent pas, lui préfère ne rien dire. Mais finalement, il est tout aussi lisse que les autres dans sa communication, puisque finalement, il ne nous dit rien.
Mmh. C'est peut-être.
Alors, c'est pas un vrai mec qui rue dans les brancards, comme on peut en voir ceux qui suivent la NASCAR, les Kyle Busch, les Kurt Busch et compagnie. C'est des vrais mecs, c'est des vrais caractères, qui ont du tempérament et qui ont la langue bien pendue et tout ça, et qui donnent vraiment, d'ailleurs, qui n'ont pas que des fans. Là, Kimi Raikkonen, je trouve, moi, en termes de communication, je le trouve aussi plat que les autres parce qu'il apporte rien.
Ouais, oui. Est-ce qu'on prend, j'ai à tout le personnage de Raikkonen, ou on prend juste le pilote de Formule 1. La question qu'on se pose.
Mais après, c'est vrai que c'est un personnage qui dénote, hein, et puis que c'est un personnage effectivement qui est rafraîchissant dans la F1. Mais quand on se penche vraiment sur le personnage, il fait que faire ce que font les autres, sauf que lui, il se tait. Non, mais voilà, c'est un peu... plutôt que de dire des banalités, etc., il dit, écoutez, vous avez la réponse, donc voilà. Mais c'est pas un vrai bad boy, quoi. Moi, j'aimerais qu'il soit plus bad boy.
Tu veux qu'il brûle ses chambres d'hôtel? Tu veux
que... j'aimerais qu'il soit plus rock'n'roll.
Ouais, c'est vrai.
Voilà, il l'est, on sent qu'il l'est, mais j'aimerais qu'il le soit plus.
Ouais, c'est vrai qu'il
est... Là, il est quand même très rock'n'roll dans les clous, quoi. C'est un peu... Il est Beatles, il est pas Rolling Stone. Moi, je veux Kimi Raikkonen Rolling Stone, je veux pas Kimi Raikkonen Beatles.
Je le vois bien jouer avec la guitare et June. J'aime bien ces pilotes finlandais, quoi. C'est un peu comme les skieurs canadiens, on les appelle les crazy canucks, parce que les mecs, ils prennent tous les risques possibles, imaginables. Alors, c'est vrai que là, ils prennent pas de risques, il fait sa course. Moi, j'ai pas trouvé sa course intéressante dimanche. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'ai pas trouvé très intéressant. Voilà.
Mais qu'est-ce qu'on a trouvé d'intéressant dans ce Grand Prix?
Ah, oui, intéressant.
Ne me pose pas la question, sinon je vais te sortir un truc du IG Magazine.
Non, mais j'ai trouvé très intéressant. Bon, je pense qu'on reviendra un petit peu plus tard la course d'Alonso.
On y reviendra. Oui. Ah.
Je sais que je prêche un converti, mais.
Attention, tu serais surpris.
Tu pourrais être surpris aujourd'hui.
Ah bon, d'accord.
Alors ensuite, quelle est l'actu dont tu n'as rien eu à foutre ces dernières semaines? Mais vraiment rien eu à foutre. Hein,
c'était le Grand Prix des États-Unis qui a été reporté en 2014.
Non, ah, le Grand Prix d'Amérique.
Le Grand Prix d'Amérique.
Bah, bientôt on aura deux Grands Prix d'Inde. Je sais pas comment on va l'appeler.
Ah, j'ai fait juste un petit historique du Grand Prix des États-Unis. Je me suis basé un petit peu sur Wikipédia. Alors, il était quand même intéressant, ce Grand Prix des États-Unis. Alors, dans les années 80, il y a eu des gros accidents comme Pierre Gazzoni qui est devenu tétraplégique en 1980.
Oui. Ça me fait très peur, là, ce que tu es en train de dire.
Bah oui, mais c'est un petit peu ça. En 80, une pole position de Ricardo Patrese. Et la première victoire de Niki Lauda avec une McLaren en 82 au Grand Prix des États-Unis. Et puis il faut quand même se rappeler de ce Grand Prix des États-Unis sur l'anneau de Indianapolis quand même, hein, en 2005.
Ah bah oui.
Ah oui, ce fameux Grand Prix qui était vraiment très.
Ah, il était beau celui-là.
Non mais c'est vrai que bon, ça s'inscrit beaucoup en pointillé. Faut le rappeler, paradoxalement, les États-Unis sont un grand pays de la F1. Il y a eu quasiment en continu. C'est vrai que ces dernières années, il n'y a pas eu de Grand Prix des États-Unis, mais il y en a même eu plusieurs par an. Il y a eu quand même des pilotes américains. Il y a même eu quelques écuries américaines. Alors que pourtant,
il y a même eu un champion américain.
Il y a même eu
deux même.
Oui. Les États-Unis n'ont pas l'air de beaucoup aimer la F1, et pourtant, ils font partie de l'histoire de la F1.
Mais j'ai l'impression que c'est un peu le cadet de leurs soucis, quoi. Parce qu'ils ont tellement de compétitions
mais complètement.
Ils en ont plus rien à faire, quoi. Qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas, c'est la même chose. Voilà. Autant faire un autre Grand Prix dans un autre pays qui est vraiment demandeur de, comme par exemple l'Inde ou peut-être la Thaïlande, non?
Mais les États-Unis sont demandeurs quand tu vois. Enfin, faut quand même remarquer que c'est quand même historique, c'est que ils ont construit un circuit
pour la F1.
C'est la première fois pour la F1. Le circuit d'Austin, il a été construit pour la F1. Bon, après vont se greffer la moto, je crois.
Oui.
Y a aussi peut-être du V8 ou un truc dans le genre qui vont s'y rendre, mais c'est le premier circuit construit sur le sol américain, spécifiquement pour la F1.
Bah, en tout cas, si les Américains ils ont regardé le Grand Prix d'Inde, ils ont dû un peu s'emmerder. Hein. c'est ça qu'on va aller voir, papa? Non, t'inquiète pas, ça va être autre chose.
Alors ensuite, quelle actualité hors Grand Prix aimerais-tu lire dans les prochaines semaines?
Que Laurie gagne le concours Danse avec les Stars, non, c'est pas ça. Non.
Mais pourquoi pas? J'étais en train de chercher le lien avec la Formule 1.
Il n'y en a pas. Non.
Une actu F1, précisons. Maintenant, je vais préciser dans les questions. J'ai dit une actu F1, hors Grand Prix.
Une actu F1, bah, je dirais que la saison des transferts s'arrête parce que j'ai l'impression que plus. Donc les pilotes n'osent plus trop prendre de risques pour de peur de leur baquet. Donc je sais pas s'il faudrait comme
il y en a qui sont assurés de leur baquet et
qui prennent un peu trop de risques.
Je sais pas si on pourrait faire comme par exemple dans d'autres sports collectifs, une période de transfert de tel mois à tel mois et on arrête quoi, parce qu'après
peut-être après tout pourquoi pas.
Moi je trouve que là il y a plus personne qui prend trop de risques parce que les contrats seront pas signés. Exemple Grosjean, moi je trouve qu'il a fait une course une super course, mais il prend pas trop de risques parce qu'il sait qu'il est dans le viseur de la FIA et en plus il est dans le viseur de Lotus. Il prend pas trop de risques, voilà quoi.
Mais ça serait pareil Grosjean s'il y avait une période de transfert précise, ça n'empêcherait pas quand même de marcher sur des œufs en sachant que arrivé la période des transferts, il est pas sûr d'avoir son contrat quoi. Ce qui est le plus gênant, c'est quand c'est pas trop dans les confirmations de pilotes au sein de leurs écuries, mais plutôt dans les départs. Que ce soit, on l'a vu, enfin c'est indéniable aujourd'hui que le départ de Lewis Hamilton, ça a détraqué quelque chose. Il a fallu quand même quelques grands prix pour qu'il digère tout ça.
Je suis pas encore sûr même qu'il l'ait encore digéré.
Mais c'est vrai qu'on a vu qu'il y a eu des polémiques autour sur est-ce que ça va changer les compagnies, et rien que le fait de se poser la question, ça a nécessairement changé les choses et ça a créé un climat autour de l'équipe qui n'était pas serein. On l'a vu aussi avec Felipe Massa toute la saison, le fait de tout le temps lui poser la question sur qui va le remplacer et compagnie, c'est pas non plus positif pour un mec. Je pense que c'est dans ce sens-là où effectivement une période précise des transferts serait peut-être pas anodine.
Oui, parce que ça cloue le marché, hein. Après on n'en parle plus, quoi. Alors j'ai juste une question. Je sais que Kobayashi lui manquait beaucoup d'argent pour
on ne donnera pas d'argent. Non mais je te réponds tout de suite. Nous n'avons pas les moyens de soutenir Kobayashi.
C'est vrai que depuis plusieurs grands prix, il cherche beaucoup.
Je crois qu'il lui manque 1,5 million d'euros pour gérer.
Oui, non, on donnera rien.
On peut faire un Kobayashi-ton, hein, un truc, passer à la télé pour lui donner le.
Ouais, ouais.
Non, mais je crois.
Après tout, on l'a bien fait pour Fukushima, on peut faire pour Kobayashi.
Bah voilà.
Oui.
Voilà. Non, mais vous voyez, donc c'est vrai qu'aussi, il y a ça aussi, le fait de boucler leur budget et d'avoir au moins leur paquet assuré l'année prochaine. C'est aussi important, quoi. Mais je pense que une période donnée entre, je sais pas, 2 mois, on se fixe 2 mois pour clôturer ces transferts et après on n'en parle plus, quoi. Voilà. Puis bon, j'étais quand même triste que Schumacher, on les virait un petit peu comme un malpropre. Mais ça.
Non, il avait envie de partir, il était fatigué, il en pouvait plus. En fait, il a été libéré par la décision de Mercedes parce que il osait pas se laver le lui-même.
Ils sont super sympas, ils vont lui filer la voiture de cette année.
Ouais. Ah ouais. Oh, le cadeau. Waouh. Mickaël, on t'offre la voiture avec laquelle t'as le plus galéré.
Vous avez pas plutôt une F2004?
Même repeigner la en gris, ça me dérange pas. C'est, je pense que même Ferrari sera peut-être d'accord. Donc,
si va les Ferrari, je pourrais avoir les 7 Ferrari. Non, surtout, en plus, moi, je suis un gros fan de montres et il y a Audemars Piguet qui a sorti une série limitée Michael Schumacher. Ah oui, très belle. Avec les sept étoiles, avec correspondant aux 7 grands prix. Hein. C'est tiré à très peu d'exemplaires, à 1500 exemplaires. Bon, je vous donne pas le prix de la montre parce que là, c'est plus qu'un cent.
Bah, c'est magnifique, avec une montre, on peut financer la fin de saison de
Camille Combe. Oui,
à peu près, ouais.
C'est ça, oui, voilà.
Alors ensuite, au contraire, quelle serait l'actualité, toujours hors Grand Prix et liée à la Formule 1, que tu n'aimerais pas lire dans les prochaines semaines?
Bernie Ecclestone, par exemple.
Alors, quelle actualité tu n'aimerais pas lire concernant Bernie Ecclestone? Qu'il continue, qu'il arrête,
okay.
Qu'il meurt.
Non, je ne sais pas, c'était bon, mais... je suis un peu mitigé. Je vois bien qu'il continue parce que je trouve qu'il a fait quand même avancer la Formule 1 malgré tout ce côté paillette, hein. Mais après, qui peut le remplacer, quoi. Voilà.
Alors, j'ai... Briator.
Ouais. Je suis pas trop pour Briator.
Briator quand même. Pour remplacer Bernie Ecclestone, il faut un mec un peu sulfureux. C'est soit Briator, soit Berlusconi. Je suis désolé, mais mon gars. Bon, Berlusconi, il est pas dispo pour les 5 prochaines années. Mais
non, c'est vrai que bon, c'est vrai qu'ils sont sulfureux, ils ont des belles femmes. Genre, mais bon.
Ouais. Ouais. Faut voir à quel prix aussi.
Ah, il testait, monsieur. Voilà.
Max Mosley. Ah, la Bernie remplacée par Max Mosley, ça serait trop bon.
Hey, mais tu veux provoquer des vagues de suicide, toi, dans le paddock,
hein? Soit on déterre. Mais... Jean-Marie Balestre, hein. On peut le déterrer, hein.
Non, mais c'est vrai qu'en même temps, on aimerait tous que Bernie Ecclestone parte, mais il donne quand même du piment à la Formule 1. Enfin, voilà, moi, le jour où il meurt, où il arrête, on lui a encore posé la question de quand il allait sortir, il a dit que tu n'es pas prêt de la retraite.
Non, mais le pire, c'est que le jour où il sera remplacé, il sera sans doute remplacé par quelqu'un qu'on connaît pas, qui sera un pur financier, parce que c'est toujours comme ça. Oui, parce que, bizarrement, Bernie Ecclestone n'est pas forcément un pur financier, dans le sens où, faut pas l'oublier, il a été directeur d'écurie et tout ça. Et pilote, bon. Il risque d'être remplacé par un type qui a jamais dirigé une écurie, qui sera dans le pool des actionnaires là quand la F1 sera en bourse.
Bah, la F1 a un président maintenant. C'est justement pour ça, pour la
succession,
que le fait de la succession.
Et c'est qui? C'est.
Alors.
Voilà. C'est.
Non, mais on peut avoir un peu une direction bicéphale comme au PSG où il y a le Qatarien.
Le président, il a dit.
Il me parle pas, Bernie. Non, il parle pas à toi.
Non, mais vous voyez, il y a un type au PSG qui s'appelle Jean-Claude Blanc, quoi, qui est directeur général du club du PSG et qui gère les finances. On peut avoir ce genre de type de direction bicéphale, un type qui fait le barnum et un autre qui gère
Mais aujourd'hui, Bernie Ecclestone ne fait quasiment plus que le barnum.
Ah bah oui, ça c'est clair.
C'est tu sais, Bernie Ecclestone, c'est un peu le macro qui vient relever les compteurs à la fin du mois. Quoi. C'est, je suis désolé d'être comme ça, mais Bernie Ecclestone, c'est un peu ça. C'est le mec qui chapote un peu tout, mais en quantité de boulot, il fait
pas grand-chose. T'as raison, en plus, il a une tête de macro. Le poisson, hein, bien sûr.
Donc il vient avec les pompes bicolores et le costume à rayures, c'est ça. Et le Borsalino. Bon, voilà, quoi. Moi, je sais pas ce qui peut se passer dans le futur. Si Bernie est plus là, c'est un peu, je sais pas s'il y a une grande période d'incertitude, ou est-ce qu'il a déjà désigné un successeur? On sait pas.
Ouais.
Voilà.
Et enfin, est-ce que tu aurais un drive-through of the weekend?
Bon, un drive-through, c'est les commentateurs de Formule 1, hein,
monsieur... Ah, ça faisait longtemps.
Donc, et monsieur Lafitte. Encore que Lafitte, encore, il commente la Formule 1 comme dans les années 70, hein. C'est un peu le Marty McFly de la Formule 1. Mais je ne sais pas. Bon, je sais qu'il pose des belles photos sur Twitter, Monsieur Malbranche, mais bon, il fait que ça, quoi. Voilà. C'était juste le drive-thru. Voilà.
Et toi, Shinji?
Moi, j'en aurais un par rapport à l'affaire du drapeau.
Ah putain, c'est mon. C'est pas grave, j'en ai un autre.
Ah, ce fameux, parce que donc pour rappeler, hein, certains ont peut-être remarqué sur les Ferrari, elles arboraient cette semaine, pas avant, et elles ne le feront plus le reste de la saison, le drapeau de la marine italienne. Donc officiellement, c'est un pur hasard. C'est ce qu'ils disent.
Ah non. Enfin, c'est.
Non, attends, c'est ce qui.
Dominicali s'est défendu en disant on rend hommage à une institution et compagnie. Mais très clairement, avant le Grand Prix, ils ont clairement expliqué que c'était pour soutenir les deux soldats, voilà. les deux marins, les deux soldats de la marine italienne, qui sont des agents de sécurité qui étaient sur un paquebot et qui ont abattu des pêcheurs en les prenant pour des pirates. Voilà. Et donc il y a un conflit diplomatique en ce moment entre l'Italie et l'Inde pour savoir si en fait ça dépend de la juridiction internationale ou si ça dépend de la juridiction indienne. Les Indiens disant que ça s'est passé dans les eaux territoriales indiennes et l'Italie disant que ça s'est passé dans les eaux territoriales internationales. Donc
pour l'instant, les deux marins italiens sont en Inde. Donc voilà, ça crée des tensions diplomatiques. Ils étaient quand même super gênés. Enfin, en même temps, ils devaient bien se douter que tout le monde allait leur poser la question là-dessus. Je sais pas si ça vient d'eux, si ça vient pas d'au-dessus, au niveau de Montezemolo. Voilà. On a beaucoup parlé du mélange entre politique et F1 cette année, hein, au moins deux fois. Hein. Voilà, c'était pas franchement, moi à mon avis, pas une bonne idée de faire ce genre de choses. Voilà.
Mais ils les ont enlevés ou pas du tout? Ils ont gardé pendant la course?
Ah, ils l'ont gardé, ils l'ont gardé.
Ah d'accord.
Parce que quand leur en a parlé lors des conférences et tout ça, ils ont dit non, c'est pas lié à ça et tout.
Oui, enfin, même Dominique Alli a dit, vous savez, on a déjà fait plusieurs fois ce genre de manifestation et compagnie. C'est vrai que l'an dernier, ils avaient mis le drapeau italien sur la monoplace. Ça, c'était
toute l'année.
C'est parce que c'était l'anniversaire
de
l'unité italienne. Donc là, c'est une référence nationale. Mais il y a aussi le 11 septembre.
Il y en a qui l'ont dit. Ils auraient fait ça, par exemple, pendant le Grand Prix d'Italie. Personne n'aurait rien dit. Oui. Mais là, le fait qu'en plus...
Ça aurait été pareil. Si c'est pour... c'est le problème, c'est l'intention qu'il y a derrière. C'est qu'on sait très bien pourquoi ils le mettent. Pourquoi mettre le drapeau de la marine? Quiconque connaît un peu l'actu et suit un peu l'actu, ils mettent le drapeau de la marine parce qu'il y a des marins qui sont retenus. Je crois qu'ils sont pas prisonniers. Je crois qu'ils sont juste privés de... Enfin, interdits de quitter le territoire indien. Mais ils ont rendu leur passeport. Il y a eu une amende. Mais ils sont en Inde. Mais ils sont pas en prison. Je crois pas qu'ils soient en prison. Mais ils vont être jugés, par contre, en Inde. Et tout le monde sait très bien. Tout le monde est capable de faire le lien entre le drapeau de la marine et le fait que ce soit un soutien à des soldats. D'ailleurs, ça a été repris par des hommes politiques italiens. On sait aussi que Montezemolo a des ambitions politiques. Donc, c'est encore une fois, c'est se servir de la Formule 1 pour, comme tu disais, pour faire de la politique.
C'est une confusion des genres, voilà, qu'on n'aime pas, quoi.
Alors même que ces équipes-là sont allées au Bahreïn,
sachant qu'il y avait
sans rien trouver à redire.
Oui.
Quoi, donc,
sachant qu'il y avait quand même des manifestations.
Aussi un drapeau de soutien, quoi.
Bon, ça prend la première et la dernière fois, quoi.
On peut penser au Canada, c'est pour ça que je citais que c'était pas la première fois cette année finalement que ça se mélangeait un peu trop.
D'accord.
Donc voilà, c'était mon drive.
J'avais pas noté ce détail du drapeau. Voilà.
Et toi, Dino?
Moi, j'hésite à entre mettre un drive-thru à Fernando Alonso.
J'en étais sûr.
Au fan de Fernando Alonso. Je vais quand même, enfin, je vais mettre deux, en fait, ça, c'est fondamentalement pour la même raison. Bon, je suis fan de Ferrari, je suis fan, par conséquent, de Fernando Alonso, je suis devenu fan de Fernando Alonso parce qu'il fait une saison extraordinaire. Je vais pas revenir sur son Grand Prix, on va en revenir plus tard, mais, moi, ça me fatigue un peu d'entendre des fans, un peu partout, dire, bah oui, mais, Alonso fait des miracles et compagnie, sans lui, Ferrari serait nulle part, en omettant quand même le fait que certes Alonso fait des miracles avec la voiture, maintenant il faut aussi quand même rappeler que Ferrari a aussi fait des miracles avec leur voiture, qu'ils ont apporté énormément de nouveautés au cours des semaines et qu'ils ont quand même réussi à faire évoluer leur voiture. Ils se sont plantés au début de la saison, on est bien d'accord, mais ils ont quand même permis à Alonso d'avoir une voiture qui lui permette quand même aujourd'hui, parce que c'est, enfin voilà, dans la Formule 1 moderne, c'est pas le pilote seul qui fait la différence, qui lui permet quand même aujourd'hui d'avoir une écurie qui est deuxième au championnat des constructeurs, d'être le seul opposant à Sébastien Vettel pour le championnat pilote, et d'avoir quand même survécu jusque là quand même grâce à son talent, mais aussi grâce à une voiture qui s'est améliorée,
et même Massa par... même Massa
Massa, oui, mais je suis d'accord pour Massa.
Alors c'est aussi contre Alonso, parce que Alonso commence à taper du point sur la table.
C'est ce que j'allais dire, à un moment Alonso il a tapé le point sur la table en disant j'ai une voiture qui se traîne, ça va pas quoi.
Bon, apparemment ce week-end il y a eu des échauffourées, enfin il y a eu grosse discussion entre Alonso et notamment Pat Fry dans le moto, enfin chez Ferrari. Il y a Alonso qui a été à deux doigts de, enfin qui aurait été à deux doigts de d'envoyer un message sur Twitter. Je tiens à dire à mes followers que depuis le mois de mai rien n'a changé sur l'arrière de la voiture. Bon, tout ça c'est à mettre au conditionnel parce que il y a pas de source directe, c'est que des on dit. Mais même avant le Grand Prix, il était déjà en train de dire oui, non mais on me promet plein de choses et je vois rien arriver. Après le Grand Prix, il fait, enfin après les qualifications, il fait quand même une saillie en disant je me bats contre Adrian Newey. Donc grosso modo, c'est dire que Vettel ne doit ses succès que à Adrian Newey et dire grosso modo que eux ils ont Adrian Newey, nous on a personne. Donc voilà, c'est pas une surprise d'Alonso, ça a toujours été son caractère, ça a toujours été cette manière-là de faire. Mais je trouve que Alonso aussi entretient un petit peu ce côté-là, et un peu comme Lewis Hamilton, ce qu'on pouvait lui reprocher, c'était d'essayer de se mettre un peu ses fans dans sa poche en disant, vous voyez, je suis un pauvre miséreux, on fait rien pour moi.
Il ajoute Calimero, quoi. C'est ça.
Alonso, voilà, il fait un peu son Calimero, il fait un peu la même chose, en oubliant quand même de souligner que Ferrari a fait des progrès énormes cette saison, et que, bah, effectivement, c'est l'écurie qui est la plus fiable, c'est l'écurie qui, au stand, n'a pas fait une connerie de la saison. Voilà, en course, ils sont très forts en course, on l'a encore vu ce week-end. Il fallait le faire avant, j'ai envie de dire, fallait le faire avant, fallait qu'il gueule avant. Fallait avant dire, voilà, j'ai pas de nouveauté et compagnie. Là, il dit, il aurait dit, j'ai rien depuis le mois de mai. Pourquoi tu le dis au mois de novembre?
Mais je pense qu'il a perdu, c'est un peu l'élément. Avant, il était quand même l'élément fédérateur de l'équipe. Alors, est-ce qu'il a perdu cet élément fédérateur? Est-ce qu'il y a comment y avoir des peut-être décisions sur côté Ferrari ou pas? En disant, bon, allons-y, ils nous demandent trop, on fait comme tu disais, on fait ce qu'on peut avec la voiture qu'on a.
Le pire, c'est que je pense que Ferrari, ils lui sont totalement consacrés. Bon, c'est aussi un contexte, c'est aussi, ça a toujours été son mode de fonctionnement, d'être comme ça très exigeant et de un peu baver dans la presse et dans les médias pour avoir ce qu'il veut.
Bah, il y a pas que lui, il y a Hamilton aussi quand même.
Hein. Bah, Hamilton l'a fait, Schumacher l'a fait hein, dans les premières années Ferrari. Schumacher se gênait pas pour dire dans la presse, notamment allemand, de dire, bah oui, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Là, je trouve dans le moment qui est un peu critique et où on aurait justement besoin d'une certaine unité, je trouve que c'est un peu exagéré d'abord de sa part, mais aussi de la part de ses fans, de faire une scission entre d'un côté Alonso et Ferrari. C'est une équipe qui gagne. Vettel l'a très bien dit ce week-end. Donc, il faut aussi un petit peu accentuer sur l'unité. Et voilà, c'est Ferrari et Alonso qui font des miracles parce que les arrêts au stand sont super, parce que ils ont fait des progrès, parce que certes, c'est peut-être pas les meilleurs en qualification, mais ils s'améliorent. Ils font du bon travail dans l'ensemble. Voilà, c'est l'une des meilleures équipes de la saison, Ferrari. Ils sont partis de bas quand même. Faut juste le rappeler.
Ah oui, ils sont partis de très bas et ils sont venus le plus haut possible, en tout cas par rapport à leurs possibilités. Hein.
Mais c'est ça aussi. Enfin, quand tu vois certains commentaires qui sont super exigeants aujourd'hui avec Ferrari, t'as juste envers le même. Mais vous vous rappelez ce que vous disiez au début de saison? Vous étiez désespéré parce que vous voyez une saison noire pour Ferrari, pour Fernando Alonso.
La première victoire, là, c'était un miracle. Hein.
Ils sont voilà. Oui. Là, ils sont dixième du championnat constructeur. Alonso est à 13 points maintenant de Vettel. Il est pas largué face à un Vettel qui a la meilleure voiture actuellement. Voilà, c'est sûr qu'on peut avoir les boules parce qu'on s'est cru trop beau là pendant l'été, mais il faut aussi revenir un peu sur la saison et se dire bon, on est finalement pas si mal placé que ça. On pourrait être pire.
Oui, mais Alonso, il veut le meilleur du meilleur. Il veut, voilà, il veut gagner, quoi. C'est un gagneur. C'est un champion et il veut gagner. Il veut gagner un autre championnat du monde et il se plaint de ne pas avoir la meilleure voiture.
Après, mais moi, le problème, c'est, le problème que j'ai avec Alonso dans son comportement-là,
c'est
plus que ça comme, c'est est-ce qu'aujourd'hui vraiment il a besoin de taper comme il le fait sur l'équipe alors que déjà toute l'équipe fait tout ce qu'elle peut, quoi. Enfin, il demande à une équipe d'être au garde-à-vous alors qu'elle est déjà au garde-à-vous. Donc, voilà, moi, je trouve que c'est juste de la communication, c'est de la frustration, c'est de la communication pour un peu flatter ses fans et dire à ses fans, vous voyez, je suis maltraité. Alors, enfin, sincèrement, il y a bien un pilote en Formule 1 qui peut pas à plaindre.
C'est bien lui. Au contraire d'autres.
On va passer à la course, et d'abord par les qualifs. Cette semaine, une place du con, c'est l'habituel hein, cette année, c'est Jean-Éric Vergne.
Oui. Hein,
bon.
Oui. Comme il est une fois, lui.
Bah, je trouve que Charles Pix, on est bien sorti, quoi. Charles Pix.
Bah, sur la qualif, il finit dernier.
Oui. Mais au niveau de la course, moi, j'ai.
Ah, après,
bah. On va voir, peut-être qu'il a des points.
À la 16e place, on trouve Paul Di Resta qui non, j'oublie d'abord Kamui Kobayashi, hein,
oui.
qui cherche des sponsors. Bon,
voilà. Donc, qui est un peu la tailleur.
Ouais. Seulement 17e. Hein, un peu dommage. En plus, bon. Non, j'allais dire que c'était l'occasion de se distinguer, mais Gutiérrez n'a fait que le premier vendredi matin. Donc, finalement, non, parce que c'est vrai que si, bon, faut pas oublier, hein, Pérez aurait pu ne pas faire le Grand Prix. Enfin, le week-end. Ouais.
Bon. Non, mais je crois qu'il souffre d'un rhume, c'est ça? J'ai vu des
trucs. Une petite grippe, apparemment.
Ils n'ont pas fait rouler vendredi matin, mais c'est juste parce qu'ils n'avaient pas besoin, en fait, parce qu'ils se sont dit, la piste va être poussiéreuse, on va pas forcément avoir besoin techniquement d'un titulaire pour ça. Mmh. Donc autant donner le volant et permettre à Pérez de se reposer davantage et compagnie, parce que je crois que du coup, alors je sais pas s'il est arrivé malade ou s'il est arrivé tard, en fait, en Inde, parce que justement il était malade, et donc il a repoussé son départ.
Mais bon, pour le coup, Camille, il en a pas profité. C'est dommage, il aurait pu s'arrêter l'occasion pour. Mais non, bon. Oui. Paul Di Resta donc fait 16, derrière Ricciardo 15, Schumacher 14.
Ouais, bah c'est ça. Est-ce que là, c'est sa place même. Est-ce que c'est sa place? Non.
De toute façon, à partir du moment où on voit Rosberg qui fait 10, on peut se dire que non,
c'est pas sa place. Oui, enfin, c'est quand même pas très loin, quoi.
Ouais. Ah, l'un c'est une Q3, l'autre c'est une Q2 quand même, hein.
Oui, mais quand tu regardes en termes de place et en termes
oui,
de chrono,
bien sûr.
Voilà, c'est pas non plus, c'est pas sa place. Oui, on aimerait aller voir plus haut, mais aujourd'hui, est-ce qu'il peut prétendre à beaucoup mieux?
Non.
Ouais, il peut prétendre à la limite à une 10e place, celle de Rosberg.
Voilà. Senna fait 13, derrière Hülkenberg.
Hülkenberg, bien. Bonne. Moi, j'ai trouvé les qualifs intéressants de Hülkenberg. Moi, je trouve que c'est un pilote d'avenir, Hülkenberg. Hein, je vous le dis. J'adore ce pilote.
Il progresse bien sur la deuxième partie de saison. Il a eu du mal à se mettre en jambes. Et là, il progresse bien. C'est un peu dommage qu'il saute d'écurie chaque année. Parce que s'il est autant diesel que ça chez Sauber, et dans deux ans, je sais plus quelle équipe, et voilà. En changeant toutes les années d'équipe, si à chaque fois, il faut qu'il mette une demi-saison pour se mettre en jambes.
Ouais, mais à chaque fois, ça lui permet de progresser. Donc, il fait une très bonne deuxième partie de saison.
Oui.
C'est pas mal, hein, pour quelqu'un qui espère peut-être gagner des championnats du monde, être bon dans la deuxième partie de saison.
Oui. Oui, mais il faut aussi être bon dans la première. Ça, c'est dans la première partie que un championnat se gagne vraiment ou se perd. Enfin, c'est là que tu te qualifies.
Ouais, bon, faut regarder Vettel, hein. Il va gagner le championnat du monde sur la deuxième partie de saison quand même aussi.
Sur la troisième, parce que quand tu regardes cette année, c'est un peu une saison 3 en 1. Hein.
Oui, c'est vrai.
Il y a jusqu'au Canada. Hein, on disait ouais, ça va être génial cette année, super et tout. Il y a eu cet été, cette espèce de momentum Ferrari. On s'est dit ouais, là il arrive en tête, il va gérer jusqu'à la fin de saison et tout. Et il y a la troisième partie, celle qu'on vit, celle qui est merveilleuse. Mmh. On a des courses géniales et super passionnantes.
Et là, on pleure.
Ça y est, Shinji, on t'a perdu.
Et là, Shinji pleure.
Faut que tu tiennes, Shinji. Je ne finis pas cette saison tout seul.
Mais écoute, peut-être que Alonso aura l'aide de Romain Grosjean, hein, pour la fin de saison, parce qu'après tout, hein.
Ah ouais, putain, Romain, ça me fait le plaisir. Ah. Je tiens à rassurer, je ne suis pas anti-Vettel. C'est juste que j'estime que dans l'intérêt de Vettel, ça serait bien qu'à un moment donné, il perde. Voilà, c'est tout ce que je dis.
Et pourquoi pas au prochain Grand Prix, hein.
Non, mais pourquoi pas cette saison?
C'est vrai que...
Moi, je dis, non mais sincèrement, j'adore Sébastien Vettel, ça c'est mon pilote. Si je devais choisir un pilote que je préfère, ça serait Sébastien Vettel. Voilà, devant même Alonso, devant même Schumacher et compagnie. Et j'aimerais, voilà, je trouve que pour lui, d'abord en tant que pilote, en tant qu'homme, et puis aussi en termes d'image, j'aimerais qu'il perde cette saison. Voilà, je le cache pas, ça m'empêcherait qu'il soit champion à la fin de l'année. Non mais c'est vrai.
C'est pas sympa du malheur des autres. Hein.
Ça me ferait chier qu'il soit champion parce que parce qu'il va passer par les mêmes étapes que Schumacher et que j'ai été fan de Schumacher dans les années de domination de Schumacher et qu'effectivement, j'ai pas envie qu'on dise de ce super pilote et pour moi de ce très grand champion et un grand champion.
Il a été titré parce qu'il y avait une Red Bull. Voilà.
Voilà, j'ai pas envie qu'on dise ça parce que je pense que ça il vaut beaucoup plus que ça. Et le problème c'est que c'est ce qu'on dit.
Donc Romain qui n'a fait que 11e, il a pas réussi à atteindre la Q3.
Mais il était limite content.
Ah bah la 11e place, c'est toujours intéressant.
Ah, c'est à prendre, hein. C'est tout ce qui est pris était bon à prendre. Hein.
Puis à la 11e place, il y a plus de stress aussi.
Oui, non, puis à la 11e place, c'est surtout que tu as des pneus neufs t'as le choix libre des pneus. Ce qui fait qu'il peut partir en pneu dur neuf et gagner deux places en course.
Oui.
Ça, c'est un peu le seul qui a, avec Hülkenberg, je crois qu'il y a une stratégie un peu intéressante.
Sinon, en Q3, Nico Rosberg, il a fait 10, il a pas fait tant. Il est pas le seul et c'est pas la seule équipe. Mais quand même, les Mercedes, c'est souvent elles qui font ça. Tu me diras, elles peuvent pas forcément faire beaucoup plus de toute façon.
Non, mais c'est vrai que c'est les voitures qui bouffent les pneus. Hein.
Je crois qu'il a dit après la qualification qu'il a dit que il pouvait espérer au maximum une 7e place.
Ouais.
Parce que c'est vrai qu'elles n'étaient pas non plus trop mauvaises, hein, ce week-end, les Mercedes. Mais que.
Je les ai pas vues, moi.
Ça aurait été trop pénalisant, de faire un tour en Q3. Mm. Il fallait garder des pneus.
C'est donc Maldonado qui a fait la 9e place, habituelle pour lui.
Ouais, normal. C'est sa place, non?
Oui, actuellement, c'est dans ces eaux-là. Quand il nous pète pas des 2e places ou des 3e places, quoi. Ça lui arrive.
J'avais une dire, déjà, il a gagné un grand prix, c'est déjà pas mal. Après, on va voir.
8e, Sergio Perez. Donc, tu vois, pour quelqu'un qui était grippé,
j'ai trouvé
la veille, le jour avant, quand tu vois la différence de place avec Camus, qui lui n'était pas grippé, qui cherche des sponsors, qui espère avoir une place en F1 l'an prochain, quand même joli, quoi.
Mm-hmm.
7e, Kimi Raikkonen, un peu le meilleur des autres, hein, quand tu vois les 6 premières places.
Mm-hmm.
Voilà, 7e.
Ouais, par contre, eux, ils visaient la 7e place, ils ont eu la 7e.
Voilà. Très bien.
Non, mais j'ai trouvé que je crois qu'il fait des courses solides, Raikkonen. Hein. Il y a peu de défauts, il y a peu de déchets chez lui, dans ce pilote.
C'est un des plus réguliers. Enfin, le fait qu'il soit à cette position au classement, oui, c'est uniquement sur sa régularité.
Mais je trouve que c'est rassurant pour un top team, par exemple, avoir un mec comme Raikkonen. Alors, il va pas gagner 5 grands prix, après, il va pas abandonner 5 fois, mais c'est un type qui a des performances, toujours presque au même niveau, qui peut faire avancer la voiture en plus, je trouve. Moi je trouve que c'est un type qu'il faut avoir dans un top team. Hein.
Il veut des sous pour l'an prochain. Il veut mettez plus de sous dans la voiture.
Bah, il a qu'à faire un sponsoring avec Mackey Racing.
Ah, il s'est déjà fait.
Oui, mais là, dans l'écurie. Tenez, on vous donne 90 000 euros.
Ça va pas le faire.
Ça paye même pas le volant.
Non, mais moi, j'ai envie de dire sincèrement, si Kimi Raikkonen il veut aider l'écurie, il faut qu'il baisse son salaire. Non mais sincèrement, à un moment donné, s'il veut aider l'écurie, s'il veut avoir des résultats, faut qu'il permette à l'écurie d'avoir plus d'argent. Si l'écurie peut pas en avoir par des sponsors et compagnie, il faut qu'il baisse un peu son salaire.
Oui.
Mais il gagne moins qu'avant quand même, moins que chez Ferrari.
Oui, c'était chez Ferrari.
Non, c'est pas très dur.
Chez Ferrari, ils pouvaient se permettre de payer les mecs une fortune. Ils ont les sponsors.
Et donc, 3 premières lignes avec à chaque fois les duos de pilotes, hein, puisque 3e ligne Ferrari avec Alonso devant Massa.
C'est normal, c'est leur place.
En qualif, c'est normal. Hein.
C'est leur place.
Le nombre de 5e place qu'il a fait, c'est juste hallucinant. 2e ligne McLaren avec Hamilton devant Button. Donc tu vois, même la logique est respectée au niveau des classements.
Mmh.
Et donc, première ligne Red Bull, Vettel devant Weber. Et là, et c'est vrai que, en même temps, on aurait dû...
Est-ce qu'il gagne une consigne d'équipe?
Même la qualif a pas été extraordinairement passionnante.
Oui, non mais justement, la question c'est est-ce qu'il y a eu consigne d'équipe, parce que bon, Vettel se loupe dans son premier tour, Weber fait un bon premier tour, et deuxième tentative de Vettel, bon il claque la pole, et là Weber on l'a plus vu. C'était tu sais il y a le jeu où est Charlie, c'était où est Marc. Il a disparu du radar Weber, il a dit après je sais pas il avait fait une erreur ou je sais pas quoi, mais on cherche encore l'erreur de Weber, on cherche encore à savoir qu'est-ce qui est arrivé à Weber sur son deuxième relais.
C'était un problème de cœur.
Ah oui, c'est vrai que c'est un problème de Kers.
Il a un chat, mais c'est un chat tout électrifié. C'est-à-dire que c'est un chat, non, mais tout électrifié, parce que c'est toujours au niveau du Kers qu'il a un problème, Weber.
Oui, c'est vrai en plus. Hein.
Un Kers, les départs et compagnie.
Ah oui, c'est vrai que les départs, c'est pas pour lui, les départs. Hein, c'est pour... Surtout en pôle, quelquefois. Alors, on sait pas s'il y avait des consignes d'équipe par rapport à Weber et Vettel, mais moi, j'ai trouvé quand il est parti en pôle, il s'est vraiment chié dessus, quoi.
Ah, là, par contre, la Spoken, il est bien parti.
Oui.
Ben,
oui.
C'est normal, mais... partez pas premier.
Non, parce que généralement, Weber, il part aussi comme une merde, même quand il est 3 ou 4.
Oui,
hein, c'est vrai. Pas de problème. Mais là, il est plutôt bien parti, et à un moment donné, il s'est dit, je pars trop bien. Il y a un problème.
Ayons un problème de Kers.
Je vais être prudent. Et il a laissé passer Vettel.
Ça, c'était con d'avance.
À noter, cette semaine, il n'y a pas eu de pénalité. C'est quand même assez rare cette année pour le dire.
Oui,
il n'y a pas eu de pénalité. Que dalle. Hein. C'était quand même la 35e pole pour Sébastien Vettel, la 45e pour Red Bull, la 201e pour Renault.
Ah, bien.
À une moyenne de 216,339. Mais ils vont pas battre. C'était pas ce chiffre-là que t'avais peur qu'ils battent Ferrari cette année.
Oui.
Et ça devrait être bon.
Je crois que Ferrari, c'est 206 ou un tout.
Ah bah, tu vois, ça va être bon cette année.
Voilà, ça va tenir.
Ouais.
Oui, parce que comme Alonso, il en a regagné, il en a fait une ou deux cette année, donc du coup, ça...
Ça compense.
Voilà.
À une moyenne de 207,69 km. Alors, belle moyenne.
Là, la chance pour qu'Alonso puisse faire des pôles, c'est qu'il pleuve.
Au Texas.
Moi, j'y crois. Pour Abu Dhabi et aussi, moi, j'y crois.
Il faut qu'il y ait un événement extra sportif, quoi, pour qu'il
Il déplace. Si, la seule solution qu'il a, c'est de déplacer de Austin à New York.
Oui. Ne me lance pas sur ce sujet, je suis dit, parce que je suis très en colère contre les médias. Ah non, mais sincèrement, ils te font des éditions spéciales. Ah, Lyon, New York, catastrophe, c'est la plus grande catastrophe. Oui, non, mais il y a 3 jours, 70 morts à Haïti, tout le monde s'en branle. Hein, là, pas d'édition spéciale. Vous allez dire, ils sont habitués, c'est des pauvres, c'est pas important. Hein, ah, c'est New York, c'est sûr.
Attends,
que...
et Starbucks sous l'eau.
Ah non, ouais.
Ça impressionne, quoi.
Je sais pas, j'ai vu aussi le, j'irais le, parce que moi, j'ai été à New York, là, au mois de septembre. Et, quand vous voyez le, j'irais le, l'Apple.
Je me barre de cette émission, c'est une journée de
l'Apple Center de la 5e avenue sous les sacs de sable pour le protéger, ça m'a fait bizarre, quoi. Ça fait
c'est celui rigoler. Qui a un kiff en vert.
Oui, c'est ça.
Ah, c'est le fameux.
Ouais. C'est hallucinant, hein. Je vous le dis franchement, il est hallucinant cet Apple Center. Vous le voyez sous les sacs de sable pour le protéger de l'eau, ça fait vraiment bizarre d'avoir cette photo là.
Le mec, il va à New York, il va à l'Apple Center.
Mais non, mais c'était juste
je sais pas, moi j'irai au MoMA, j'irai à Wall Street.
Mais non, mais j'ai tout fait.
Attends. Quand t'es allé au Grand Prix d'Italie, tu m'as pas dit que t'étais allé à la boutique Ferrari à l'aéroport de Milan?
Je suis passé devant.
Il a acheté un t-shirt, c'est pour
ça. C'était dans le contexte.
Passons à la course et au top 10.
Ouais.
Le service après-vente de la F1 vous présente le top 10 de la course.
Oui, Dino, tu ne veux pas nous dire... Bon, c'est vrai que la course était méga chiante, hein, mais tu peux quand même nous dire ceux qui n'étaient pas dans le top 10.
Ah ouais, d'accord. Alors, n'était pas dans le top 10. En 24e position, Timo Glock, 1 point. En 23e position, et c'est vrai qu'il a fait une course de merde, qu'il a provoqué des accidents et compagnie, c'est Ricciardo avec 4 points. Retenez ce chiffre. En 22e position, Eki Kovalainen, 6 points. 21e, Pedro de la Rosa, 8 points. 20e, Kobayashi, 10 points. 19e, Kartikeyan, 11 points. 18e, Petrov, 16 points. 17e, Maldonado, 20 points. Et là, vous commencez à vous dire, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont voté cette semaine. Non, non. Il y a beaucoup de gens qui ont voté. C'est juste que ça a été plutôt clair.
Oui. Cette semaine, le classement n'est pas sexy, hein, faut bien le dire.
Ouais. 18e, Petrov 16 points, 17e Adorno 20 points, ça je l'ai dit, 16e Schumacher 23 points, 15e Di Resta 23 points, mais comme il est classé devant Schumacher, il est 15e, classé en course, 14e Sergio Perez 27 points, 13e, Jean-Éric Vergne, 67 points. Alors là, mystère. C'est alors là, mystère.
Ah bah, c'est Jean-Éric Vergne et Michael Schumacher, c'est grand amour en ce moment. Hein.
C'est vrai.
Non mais c'est... Vergne, 67 points. Ricciardo, 4 points.
Ne t'énerve pas. De toute façon, il marque pas de points, on s'en fout.
Oui, mais non, mais quand même, 67 points. Qu'est-ce qu'il a fait, Vergne? Il n'y a pas à emboutir Schumacher. Le mec, il a embouti Schumacher.
Bah, ça mérite des points pour certains.
Il le dit lui-même. C'est, je suis rentré au stand. Derrière ma course, elle était finie. J'avais plus rien à espérer. J'ai gagné 2-3 places et c'est tout.
Avec la malédiction de l'arrière droit. Parce mais c'est dingue, c'est tous les problèmes de pneus qu'il y a eu quasiment, c'était à l'arrière.
Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai.
Tous, quasiment tous.
Et je crois qu'il y a, pas mal de crevaisons en plus, hein. 3 ou 4.
Qui permettait très bien de découvrir ce qu'est une bande de roulement.
On la voyait bien en ralenti.
On la voyait super bien.
En 12e position, ex-aequo au nombre de points avec Vergne. C'est dire si Vergne a fait une excellente course, mais en tête, parce que Rosberg était mieux classé, c'est Nico Rosberg. Vous avez vu comment j'ai bien spoilé. Mmh. Et enfin, Mr. Eleven. Ce n'est pas Michael Schumacher qui a déjà été classé, si vous avez suivi le classement. C'est Charles Pic avec 94 points.
Bah écoute, il partait dernier, il a fini combien, 20e? Non, je dis pas de conneries. 19e.
Mais moi je trouve Pic, il est intéressant comme pilote. Hein.
Pour à titre de comparaison, le vainqueur dont nous tairons l'identité, parce qu'il y a énormément de mystères dans
carrément,
ce titre.
Carrément, carrément.
A inscrit 1838 points.
Quand même, oui. Ça pose un homme.
Ouais. Alors, il faut noter que cette semaine, comme en Corée, on a le top 10. Comme beaucoup de monde. Donc, commençons par la 10e place. Et ça tombe bien, parce que, devinez quoi, en course, il a fini à la 10e place. C'est Bruno Senna avec 225 points. Et magie, nous l'avons tous les trois mis...
10e.
10e.
Ça va être top, cette
édition. Ça va être génial.
Donc, que dire de Bruno Senna? Je trouve qu'il a fait une course solide, avec les moyens du bord. Et je trouve qu'il revient un petit peu plus dans la course. J'ai trouvé un petit peu effacé les courses d'avant. Et là, j'ai trouvé plus en forme. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé plus en forme.
Est-ce que c'est pas son côté, justement? Je suis un petit peu en danger pour mon baquet, donc je me remue le cul un peu.
Possible.
Mais Senna, c'est que ça. Enfin, moi, c'est ce qui m'énerve chez Senna. Ça, j'aime beaucoup le Senna en ce moment, ce qu'il fait, parce que je trouve qu'il fait des belles prestations. Mmh. Il est solide. Mais tu peux pas me retirer de l'esprit que ce garçon, c'est quelqu'un qui joue énormément dans la facilité, et je trouve qu'il gâche son talent, parce que je pense qu'il vaut beaucoup mieux que ce qu'il nous a montré en début de saison, et que c'était peut-être en début de saison qu'il fallait le montrer, parce que c'est là que se sont faits les résultats les plus probants, peut-être pour William.
C'est un peu côté sud-américain qu'on n'aime pas trop, quoi, chez lui. C'est-à-dire qu'il se laisse un peu bercer par tout ce qui se passe, et
je dirais, c'est même le côté gosse de riche. Enfin, à un moment donné, je suis désolé, mais j'ai un peu l'impression que c'est un garçon qui, contrairement à Grosjean, c'est la même génération, il s'est pas remis en cause, il voulait une place en Formule 1, il a accepté tout et n'importe quoi pour être en Formule 1, là, c'est je rentre pas, j'attends, mon tour va arriver, voilà, j'attends. Ah, c'est sûr que c'est venu chez HRT, c'est venu chez Lotus, c'est venu chez Williams, mais t'as quand même toujours un peu l'impression que ça vient parce que il s'appelle Senna et parce qu'il y a les sponsors brésiliens derrière et qui fait pas forcément beaucoup d'efforts pour mériter sa place. Là, il commence à en faire, mais
c'est vrai qu'il fait pas avancer là, son team.
Non.
Il le laisse un petit peu sur place et c'est pas bon pour Williams.
Sa chance pour lui, c'est que voilà, Maldonado a perdu beaucoup de points.
Ouais.
Maldonado, on l'a pas vu. Hein,
une fois, on l'a pas vu.
Mais c'est vrai que c'est un peu le seul week-end où on a vraiment eu l'impression que, sur l'ensemble, que Senna était du niveau de Maldonado.
Oui.
À la 9e place, il a marqué 292 points. Et vous savez quoi? Ça tombe bien, parce que en course, il a fini
9e.
C'est Romain Grosjean. Que Dino et moi, on a mis 9e.
Ah, parce que moi, j'avais mis Hülkenberg. Moi, j'avais mis Hülkenberg 9e.
Tu l'as mis 5e.
Qui, moi, j'ai mis Grosjean 5e. Et j'ai mis 9e Hülkenberg.
Mais alors surtout, pourquoi Grosjean 5e?
Écoute, on va faire comme le C-syndrome Charles Pic et Jean-Éric Vergne, c'est un Français. Et surtout, c'est que je trouve que par rapport, on lui a cassé quand même du sucre sur le dos par rapport à. Et je trouve qu'il a fait une course super intéressante ce week-end en termes de pneus. Hein, il a changé qu'une fois de pneus et je trouve qu'il s'en est vraiment bien sorti. Il a fait une course très prudente au début, hein, puisque bon, il avait quand même tout le focus sur lui. Et je trouve qu'il a super bien couru et super intelligemment. C'est pour ça que je l'ai mis cinquième par rapport à la voiture qu'il avait. Contraire de, par exemple, de Raikkonen, où j'ai mis septième, où il s'est traîné derrière Massa en ne pouvant pas le doubler pendant 60 tours, et ça m'a saoulé, quoi. Voilà.
Toi, Dino?
Moi, je dois dire que, comment dire.
Tu l'as mis neuvième parce qu'il était neuvième.
Mais en fait, c'est là que j'ai commencé à faire le classement sans regarder le classement. Juste en l'ayant en tête.
C'est courageux.
Et en fait, à chaque fois, bon, je disais, bon, bah, lui, je vais le mettre premier, lui, je vais le mettre deuxième, etc. Et à la fin, quand j'ai fini mon top 10, j'ai quand même été comparé par rapport au classement, et je me suis dit, oh, Dino, tu peux pas copier-coller le classement comme ça, c'est pas possible. Et en fait, bah, je vais totalement spoiler mon classement. Moi, c'est le classement de la course. Et en fait, j'estime que chacun mérite sa place, que voilà, que il y a rien.
Enfin, attends, comme Grosjean, ils sont pas distingués, donc voilà.
Voilà, je trouve que Grosjean a fait une très belle course. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Jean-François, au sens où ce qui est un peu rassurant, c'est que il a aussi retrouvé un peu de son.
Il y avait moins ce côté le petit frein qu'il y a deux semaines.
Je crois qu'il s'est repris en main, quoi.
J'aurais sur le dépassement sur Button avec autorité au freinage. Oui. Voilà, enfin, faut quand même rappeler que Button a eu des mots très durs envers lui, enfin a eu des mots durs à la fois contre Kobayashi en Corée et contre Grosjean au Japon et donc voilà, ça aurait pu être à côté de lui. On se rappelle à côté d'Hamilton que il avait été un peu tendre en Corée. Là, il aurait pu être un peu tendre à côté de Button, surtout qu'ils étaient sur une stratégie décalée. Mais il est quand même allé chercher au freinage avec autorité en plus. Enfin voilà, ce qui est bien, c'est que il a démarré prudent en Corée. Si course après course il essaye de garder pour peu à peu et se dire bon bah qu'est-ce que je peux faire, où est la limite, et porter des attaques et faire des manœuvres plus sages et plus en sécurité tout en étant autoritaire, moi je dis banco, quoi. Moi, il a fait une très belle course. Maintenant, sur la physionomie du week-end, bah, pour moi c'est voilà, c'est-à-dire que si je pouvais pas, si je le mettais, je le mettais vraiment très haut et c'était même trop haut. Donc voilà, je l'aurais mis assez 4e 5e, tu vois. Donc du coup je me dis je peux pas le mettre 4e 5e parce que comme il y en a d'autres qui ont été plus performants dans le week-end. Donc voilà, finalement, il s'est retrouvé 9e et c'est là où il a fini en course.
Bah, moi, je l'ai mis 5e parce que je trouve que par rapport à la voiture qu'il a, et je trouve qu'il se débrouille très bien et je trouve qu'il a repris confiance. Alors, est-ce que c'est des éléments externes? Je crois qu'il a pris un nouveau coach. En tout cas, un mec qui vient du judo, un ancien entraîneur de judo, ouais. qui le calme et que ça va beaucoup mieux, quoi. Moi, je trouve que là, il est remonté en charge, comme on dit, et je trouve qu'il a fait une super course. À voir pour la prochaine course.
J'ai même envie de dire, à la limite, peut-être que son départ à Suzuka a été salvateur dans la mesure où ça a été l'erreur de trop. C'est-à-dire que voilà, il avait déjà mis en place des systèmes et compagnie, et son erreur à Suzuka lui a peut-être rappelé à lui que bon, d'accord, j'ai peut-être un nouveau coach, j'ai peut-être fait des choses autour de moi, mais rien n'est gagné. Et donc, l'a peut-être davantage incité à faire attention, à être prudent, et c'est peut-être la meilleure leçon qu'il a pu tirer, quoi. C'est plus que sa faute à Spa, c'est sa faute à Suzuka, je pense, qu'il a vraiment eu un déclic sur lui, où il s'est dit, maintenant, comme l'a dit d'ailleurs Boullier, maintenant ça ne dépend que de moi, il y a que moi qui peux arrêter de faire des conneries en piste. Et je pense que là, il commence peu à peu à le faire, et ce qui est bien, c'est que on l'a senti quand même un peu plus à son aise ce week-end, moins
il était moins sur la défensive, hein.
Voilà.
Je trouve, hein. Il était beaucoup plus offensif que par rapport aux autres courses.
Bon, après, faut dire aussi qu'il est parti sur une stratégie en pneus durs, qu'il fait un premier relais, je crois, de 36 tours.
Oui, c'est ça, oui.
Et donc, ça a aussi joué dans le fait qu'il gagne des places, même s'il les a gagnées sur la piste, il y a eu des dépassements, mais ça a contribué aussi à ça.
8e place, il a marqué 356 points.
Laisse-moi deviner, Shinji. Il a fini 8e.
Exactement.
Waouh.
On a tous les deux mis 8e.
Mais est-ce que ça va
s'arrêter? Jean-François l'a mis 9e, hein, forcément. Ça décale. C'est Nico Hülkenberg.
J'hésitais entre Massa et Hülkenberg, hein, sur la place de 8 et 9. J'ai mis Hülkenberg 9. Il fait sa course, quoi. C'est un type. Mais j'attends de le voir vraiment dans un top team, hein, pour vraiment voir ce qu'il a dans le ventre. Mais je trouve que sa course était était très intéressante ce week-end aussi, quoi. Mais après, c'était, pour moi, ça a été super difficile de le mettre par rapport à Massa et puis par rapport à d'autres pilotes, qui on va, après, j'ai dû me faire un classement et, j'ai raillé 3-4 fois, j'ai refait mon classement, je l'ai mis 9e parce que il a sa place de 9e, quoi.
Voilà. Finalement, et bon, il part 12e, il gagne des places sur le premier tour.
Oui.
Et après, ça reste très stable, en fait. Hein.
Voilà.
Je suis assez d'accord que Hülkenberg, il a fait son effort au début, et puis après, bah, c'est un peu à la Rosberg, quoi. On l'a pas vu, il était un peu coincé. Voilà. Mais c'est un peu le rythme qu'il a en cette fin de saison, quoi. C'est qu'il est là. Mm-hmm. Voilà.
C'est déjà bien. Surtout avec une Force India, quoi. C'est ça,
par rapport à la voiture qu'il a, il se montre. Hein. C'est déjà bien. Déjà pour son team et aussi pour lui, quoi.
Dans ce cas-là, 7e place, 523 points. Et tu sais quoi, Dino?
Oui.
Devine à quelle place il a fini.
Il a fini 7e?
Eh bien, en fait, il a fini 7e. En même temps, il est parti 7e. Et à vrai dire, est-ce qu'il pouvait faire plus que 7e? Peut-être pas. Hein. On l'a tous les trois mis 7e. C'est Kimi Raikkonen.
Alors moi j'ai trouvé son Grand Prix un peu fadasse.
Ouais. Mais en même temps voilà, comme je disais déjà dès les qualifs, on a l'impression que derrière justement les trois écuries têtes, on pouvait pas faire spécialement.
Ouais, mais moi j'ai juste une question en termes de boîte de vitesse, j'ai trouvé au moment où il arrivait dans la ligne droite pour essayer de doubler Massa, il avait une 7e très courte. Alors est-ce que c'est un problème de réglage de boîte?
C'est un problème de réglage.
D'accord.
Et c'est un problème de réglage que d'ailleurs a totalement assumé Kimi Raikkonen. Il y en a, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont rejeté la faute dans les commentaires sur Lotus. Mm-hmm. Mais Kimi Raikkonen lui-même a reconnu que c'était une mauvaise interprétation des réglages. Et comme en fait sur le circuit d'Inde, il y a un premier secteur qui est très rapide, mm-hmm. donc une ligne droite et des virages lents,
mm-hmm.
et deux autres secteurs qui sont beaucoup plus roulants. Comme ils arrivaient pas à couvrir l'adhérence dans le secteur roulant, ils ont apparemment plutôt privilégier le secteur roulant, sauf que c'est peut-être bien pour faire des temps et compagnie. Le problème, c'est que tu trouves de l'adhérence, mais en ligne droite, t'as que dalle de vitesse de
pointe. C'est ça. Hein. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'on a vu vraiment. C'était criant quand il a voulu doubler Massa. Quoi.
Il manquait de Max. Hein.
Entre Felipe Massa, enfin la Ferrari qui avait peut-être la plus grosse vitesse de pointe, qui avait vraiment tout axé sur la ligne droite, et Lotus qui avait visiblement tout axé sur le deuxième et troisième secteur. Bon, alors on peut pas déplacer dans le deuxième troisième secteur. Donc du coup je reviens sur Felipe Massa, mais le problème c'est que je peux pas le dépasser. Voilà, même dans la sortie des comment s'appelle des arrêts au stand.
Il a essayé de le doubler au stand, il a changé.
Ça s'est
un peu
bataillé et donc Massa est parti à l'extérieur, et après en conférence, enfin dans les déclarations Ferrari, il a dit Massa il a expliqué, il a dit justement j'ai pas insisté parce que je savais très bien qu'en me remettant derrière avec le DRS ouvert, j'allais le bouffer. Et c'est vrai que même si la bataille était belle, elle était perdue d'avance, parce que moi je dis à un moment donné je vois Felipe en train d'allumer son pneu, mais je dis mais qu'est-ce que tu fais Felipe, mais passe tranquille ton virage, t'attends 2-3 tours, tu te le bouffes, c'est bon.
Vous savez, ça m'a fait penser au premier Grand Prix avec la Formule 1 Renault Turbo. D'ailleurs, mec, il se traînait dans les virages, et par contre en ligne droite, c'était un peu la même façon, quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai mis 7e.
Mais dans ce cas-là, passons à Massa, puisque il a fini 6e. Et il a fini 6e.
Et je parie qu'on l'a tous classé 6e.
Non, moi je l'avais mis 8, moi.
Oui, exactement.
J'avais mis 8, moi. Parce que bon, c'est le GRS, c'est le coéquipier qu'Alonso a toujours rêvé.
Et pourtant, là, il est pas mal.
C'est vrai.
Mais celui-là, il est bien.
Là, celui-là, il est bien. Il fait pas de bruit. Il ment s'il te plaît. Il lève la main quand il veut poser une question. Bref, tout va bien. Non, mais il a fait son Grand Prix avec son Grand Prix. Voilà quoi. J'ai rien d'autre à rajouter parce que.
Massa, il est champion dans sa catégorie.
Voilà, c'est ça.
Champion des coéquipiers.
Voilà, c'est ça.
Non, champion des coéquipiers de Fernando Alonso. C'est encore plus prestigieux.
Ça mérite.
Mais tu prends quel critère? Parce que bon, techniquement.
Il n'y a pas de critère.
C'est
juste, il est là, quoi.
Celui qui fait le moins chier, quoi. C'est ça.
Voilà.
Voilà, je l'ai mis 8. Moi, dans mon classement.
Moi, j'ai failli le mettre derrière Raikkonen. C'est quasiment le seul truc qui a failli de différentes façons. J'ai failli mettre derrière Raikkonen. C'est vrai que j'étais frustré parce qu'on sentait Raikkonen bien et vraiment pénalisé par sa ligne droite. Donc, j'avais envie un petit peu d'avantager Raikkonen, de dire bon bah, il aurait mérité quand même la sixième place avec une meilleure vitesse de pointe. Mais en même temps, tu te dis la vitesse de pointe, elle est aussi un petit peu de sa faute.
Bah
c'est
oui,
une question de plage. Donc, je peux pas me mettre derrière. Et j'ai tellement aimé l'intelligence de Massa dans le dépassement de Raikkonen, de finalement pas insister et d'attendre juste la ligne droite. Je me suis dit, bon, bah voilà. Bon,
il avait que ça à faire, il l'a bien fait, quoi.
Oui, voilà. Et, mais c'est vrai que la course de Massa n'a pas été. C'était pas compliqué. Il avait juste à gérer Raikkonen. C'était pas facile, mais il avait juste à gérer Raikkonen.
En même temps, la course n'a pas été franchement compliquée pour grand monde ce dimanche.
Oui.
J'ai pas dit personne. J'ai dit pas grand
va
monde.
Va dire ça au pilote McLaren.
On va aborder McLaren.
Ça tombe bien. D'accord. Ça tombe bien. Puisqu'à la cinquième place, c'est Jenson Button, 653 points. Et alors là, on l'a tous les deux mis cinquième. Et toi, Jean-François, tu l'as mis sixième.
Oui. Bah, j'hésitais entre Grosjean et Button sur la cinquième place. Mais Patriotique a pris le dessus, donc j'ai mis Grosjean cinquième.
Bon. Non mais voilà, si ça prend le dessus pour une place, c'est pas trop grave.
Oui.
Si ça prend le dessus pour 15 places, là c'est grave.
Oh là là. Non mais Button a fait sa course comme moi j'adore ce pilote là parce qu'il a un style de pilotage super poulé, pas heurté mais là bon, il a fait sa course. Que dire plus, quoi. Il a fait sa course. Au contraire d'Hamilton, où Hamilton, j'ai trouvé un petit peu plus engagé, où il a vraiment envoyé du lourd à la fin.
Hamilton, faut qu'il se monte devant son nouvel employeur, c'est pour ça.
Oui, c'est ça aussi, ouais. Vous voyez ce que je fais avec un beau moteur Mercedes, monsieur.
Il est déjà devant son nouvel employeur. Tu me diras, Hülkenberg aussi, il est déjà devant Mercedes.
Bon, je l'ai mis sixième.
Bon, Vergne, il a essayé d'être devant Mercedes, mais il a oublié qu'avant d'être devant, fallait pas être derrière. Alors, faut juste pas devant la voiture grise. Il se trouve que j'ai une voiture grise devant moi. Comment je fais pour aller le plus vite devant elle? Oh bah, moi je vais essayer de passer en dessous.
En dessous.
Je vais creuser un tunnel. Voilà.
Toi, Dino, sur Button, non.
Non.
Que dire? Non, mais t'es comme moi, t'es un peu sec, quoi. Parce qu'il
y a... Ouais, voilà.
Cette semaine.
On est tous un peu secs par rapport à la course, donc voilà.
Ah, et au fait, un autre truc, faut qu'ils arrêtent les grands prix dans la brume, hein. Parce que bon, déjà la Corée, mais bon, la Corée, on avait l'habitude.
Après, gorille dans la brume. Voici, grand prix dans la brume.
Non, mais ça, et ça fait deux semaines de suite, on se tape des trucs, on se paie des belles télés, HD et tout ça, pour se dire. Il y a du brouillard quand même, à 2h de l'après-midi là-bas.
Mais c'est pas du brouillard, c'est la pollution.
Mais oui, c'est du brouillard, c'est la pollution. C'est un barbecue qui a mal tourné.
Parce que du brouillard à 30 degrés, moi je veux bien, mais quand même.
Mais tu prends le brouillard à Los Angeles, c'est la même chose, hein. C'est à peu près la même chose. Hein.
Ah bah oui.
C'est clair. Hein.
Non, mais j'avais un truc à dire sur Button. Ouais, c'est le premier qui s'est arrêté au stand. Enfin, je crois qu'il y a Perez qui s'est arrêté avant. Parce qu'il y avait un problème sur les pneus de Perez, il y avait du bulage. Mais les McLaren se sont arrêtés vite parce qu'ils ont apparemment ils ont bien galéré sur les pneus tendres et c'est pour ça qu'ils ont fait un mauvais début de course et qu'ils ont été beaucoup plus fringants en fin de course. Ils étaient meilleurs avec les pneus durs qu'avec les pneus tendres.
Mais je trouve que la McLaren est très difficile à gérer, à mettre au point, hein. Je sais pas ce que vous en pensez,
ça,
mais
ils ont souvent fait des voitures très pointues. C'est pas inhérent à cette année, hein.
Oui, mais là c'est encore plus. Moi j'ai rien que j'ai l'impression que c'est encore pire, non?
C'est aussi ce qui fait un peu la force de Red Bull, c'est qu'on a vraiment l'impression que la Red Bull, tu la poses sur la piste, elle peu importe, sans la régler, elle roulera bien. Là où la Ferrari et la McLaren, t'as vraiment l'impression que pour fonctionner, il faut vraiment qu'elle soit dans sa fenêtre optimale de fonctionnement. Et voilà, bon, la Ferrari c'est les faiblesses intrinsèques de voiture, et apparemment McLaren c'est vraiment un problème de pneus, quoi. Il y a juste une fenêtre de fonctionnement, et c'est aussi ce qui a été dit pour les qualifications. Je sais plus qui l'a dit après les qualifs, mais il disait apparemment à bout, vraiment la fenêtre de fonctionnement pour les pneus était vraiment très très petite. Ben, je crois que c'est Button qui l'a dit, très très petite, et il fallait vraiment être dans la fenêtre pour faire un bon temps, quoi. Et avec une voiture qui est difficile à mettre au point, t'es plus facilement en dehors de la fenêtre.
Sinon, on a appris une super nouvelle, enfin un truc super important, c'est que les pilotes McLaren sont allés chez le tatoueur, et attention, Button,
il s'est fait tatouer.
Ouais, attention, il s'est fait tatouer un bouton.
Mais un bouton de quoi?
Un bouton.
Ah, d'accord. Oh là là.
Ah ouais, un bouton.
C'est capillotracté.
Le truc, c'est un petit bouton. C'est genre le bouton. Mais faut savoir que...
Faut savoir que les pilotes McLaren ont risqué la mort ce week-end.
Pourquoi? Parce... Oui, se faire tatouer. Pourquoi se faire tatouer en Inde?
Non, non, ils ont risqué la mort. Ils ont risqué d'autres piqûres parce qu'en fait,
ils ont hôtel... bu de l'eau.
Non, non, c'est presque ça. Donc leur hôtel était infesté de moustiques. Et faut savoir que il y a une grande épidémie de dengue dans la région, qui est une maladie potentiellement mortelle. Et donc les pilotes McLaren ont dit, c'est peut-être pas prudent de dormir dans ce coin-là. L'année prochaine, on changera peut-être d'hôtel. Bon, Hamilton, l'année prochaine, théoriquement, on va changer d'hôtel. Mais Button, il a envie qu'il change l'année prochaine parce que c'est vrai que ils ont peut-être risqué la mort.
D'accord.
Alors, ouais, c'était la
Hamilton aussi. Il est allé chez le tatoueur, mais je sais pas ce qu'il s'est tatoué. Apparemment, un truc beaucoup plus gros, plus qu'un bouton en tout cas.
D'accord. Oui. C'est pas un prénom, rien du tout, non.
Je sais pas. je sais pas s'il y a un jeu de mots avec Hamilton. Tu vois, Button. Bon, je sais pas.
Bah Hamilton, il a fait un poids de Milton.
Oh oui.
Comme ça, Nicole quand elle le voit, fait ah Milton. Il pourrit ce jeu de mots. Vous vous rendez compte ce qu'il faut qu'on fasse pour compenser la grand prix?
C'est clair.
Ça on donne vraiment hein. Notre personne. Ça, hein. Ça veut pas dire.
Vettel aurait pu se tatouer une bouteille d'eau sur son bras.
Non, ou un cheval cabré, non? Non, pardon, excusez-moi.
Ah non, ça c'est dans un an.
Ah, je sais pas si vous avez entendu, il a fait une interview comme quoi il disait, mais pourquoi vous caressez
Oui, on a demandé pourquoi il caressait le cheval pour sa voiture.
Voilà, c'est ça, mais vous avancez d'une année, monsieur.
Alors, il faut noter que Vettel a nié.
Oui.
Il a fait une interview sur Sky Sport où on lui a demandé, bon, alors, Sébastien, est-ce que tu peux catégoriquement nous nier que tu n'iras pas chez Ferrari en 2014? Et là, je vous décris Vettel. Vettel, tout d'un coup, s'est retrouvé, qui était très sûr, s'est retrouvé debout à côté de pneus Pirelli et compagnie, devant le journaliste. Et tout d'un coup, il a semblé, tu sais, un peu comme les gamins quand ils font une connerie. Il a baissé la tête. Il a regardé vers la gauche. Un peu en grattant le sol avec son pied, genre, ah tiens, il y a du sol par terre. En disant oui, je peux nier, y a rien du tout.
Est-ce que tu es pour ou pas pour rejoindre Ferrari en 2014?
Je suis pour ou pas pour. Non, mais ça a été la grande opération ce week-end. C'est voilà, c'est c'était non, mais il n'y va pas, on est sûr. Helmut Marko a dit non, mais son contrat est à l'épreuve des balles. Voilà, ok, bon. Non, puis visiblement Fernando Alonso n'a plus peur de Sébastien Vettel. Il n'hésite pas à dire que c'est Adrian Newey qui pilote la voiture. Non, mais c'est bon. C'est bon, c'est démenti. Bon.
Quatrième place, il a marqué 850 points.
Il a fini quatrième de la course, pareil, non?
Je suis en train de regarder. Non, il a fini troisième.
Mais il a été à 8 dixièmes de seconde de finir quatrième. À moins d'une seconde, en tout cas.
Dino et moi, on l'a mis troisième. Jean-François, quatrième. C'est Marc Webber.
Bah écoute, il a fait sa course. Bon, il a appliqué les bonnes consignes d'équipe, non? surtout, tu le doubles pas, hein, s'il te plaît, tu le doubles pas. Donc voilà, il a fait sa course et je trouve qu'il s'est vraiment assagi par rapport à une époque où il était beaucoup plus, véhément, tant à la fois à l'extérieur de la piste qu'à l'intérieur de la piste. Donc voilà, quand il a fait sa course avec la voiture qu'il avait, et il s'en est bien sorti. Moi, mon top 10, c'est par rapport à la voiture qu'on a ce qu'on en fait dans la course. Donc j'ai mis Weber 4 par rapport à d'autres pilotes qui vont venir après.
Bah voilà. Je dirais que comme fait important, c'est qu'il s'est fait doubler par Alonso.
Bah c'est la différence entre Weber et Alonso, quoi. Voilà.
Non, c'est la différence entre une Ferrari F2012 qui a un kerf et une RB8 qui magiquement n'a plus de kerf.
J'aime bien la communication radio. No kerf.
Non, la communication c'est bon Marc,
t'as pas de kerf,
tu n'as plus de kerf,
mais tu l'auras.
Mais il va revenir. Bon, écoute, on sait pas où il est, on le cherche.
Alors,
là, tous les mecs sont dessus, ils sont dans le paddock et tout. Ils cherchent ton kers, mais promis, tu vas l'avoir.
Ah, je sais pas si vous entendez aussi la communication radio avec Massa qui lui disait qu'il y avait un problème d'essence aussi. Oui. C'est quand même hallucinant.
Ah, il était juste.
Aujourd'hui, on est obligé de demander à Massa d'être lent.
Ah bah voilà.
Il était juste, mais en même temps, a raison, parce qu'il s'est arrêté genre 10 mètres après la ligne.
Ah oui, c'est vrai. Ouais.
Je suis sûr que Ferrari, ils ont mis exprès moins de carburant dans la voiture de Massa. Justement, pour lui demander de ralentir, s'ils ont trop peur, parce que Massa, il est trop fort maintenant pour Alonso.
Ouais, c'est fait siphonner son... laissons pas en partir.
Mais c'est là aussi où la course de Massa était belle, quoi. C'est que il devait à la fois gérer les carburants et Kimi Räikkönen. Il disait, je devais attaquer, mais pas trop, pour finir la course. Et ah bah oui, effectivement.
Je ne pouvais que le doubler qu'une fois, et pas plus. Après, je ne pouvais plus. Je poussais la voiture jusqu'à la ligne de ligne d'arrivée.
Bon, le gros avantage, c'est que Soulcan, ils n'ont pas vraiment eu à s'inquiéter des pneus.
Oui, oui. Est-ce que c'est par rapport au temps? Non. Il y a,
je sais que ça ne fait pas partie de la F1, mais je suis obligé de couper le truc.
Vas-y, coupe. Vas-y.
Disney vient de racheter Lucasfilm.
Lucasfilm.
Lucasfilm, voilà, hein. Ouais. Et ils annoncent.
Ils ont acheté Lucasfilm. Et combien ils ont bidonné?
Non, non, attends. Ils annoncent Star Wars 7, 8, 9?
2015.
Ah, attends. On arrête.
C'est pour ça, tu comprends pourquoi? Vous comprenez, je veux dire, c'est possible.
Non, mais ce que je veux savoir, c'est le montant du chèque. Combien ils ont mis?
4,05 milliards de dollars.
Non, mais on s'en fout, ça. T'es en train de nous dire, bah, il va y avoir un
sur Star Wars. Je suis sur première.fr, hein, pas.
Ouais, mais si c'est Star Wars qui rencontre Pirates des Caraïbes.
Walt Disney Company vient d'acheter Lucasfilm pour 4,05 milliards de dollars, d'après un communiqué officiel. Le site de Disney a même mis en ligne des photos de George Lucas en train de signer le contrat avec le boss de Disney, Bob Iger. Disney se paie également les sociétés filles de Lucasfilm, dont ILM.
Et ouais, c'est des effets spéciaux, c'est ça?
Voilà, et Skywalker ouais. Sound, hein.
Cela donne
à Disney, voilà, tout à fait. Cela donne à Disney une inspiration infinie, l'occasion de continuer la saga épique de la guerre des étoiles. Fanfaronne le communiqué officiel. Les fans peuvent espérer un nouveau film Star Wars épisode 7 qui sortira sur la planète en 2015. George Lucas sera consultant créatif sur le film et Kathleen Kennedy, choisie par George Lucas pour emmener Star Wars, Indiana Jones et Lucasfilm dans le futur, sera productrice exécutive. Elle est également présidente de la compagnie. Et évidemment, pour rester dans le canon Star Wars, l'épisode 7 lancera une nouvelle trilogie. Disney prévoit de sortir un nouveau film Star Wars tous les 2 ou 3 ans dans un avenir proche. Déjà que Disney produit les films de super-héros, puisque Marvel, ça leur appartient, oui. Voilà que Mickey Mouse vient de se payer la franchise de science-fiction la plus connue de la galaxie. Avengers 2 sortira en mai 2015 et Star Wars 7 la même année.
Oh là 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 là.
Attendez, faut que je m'assoie. Merde, je suis déjà assis. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle en plus, c'est ça qui est terrible.
Moi je te dis franchement, je pense que c'est une mauvaise nouvelle pour Star Wars.
Les Échos, Star Wars, Disney, tu vois, les Échos, Disney rachète le Lucasfilm et annonce la sortie dans Star Wars 7.
Je sais pas si c'est bon pour Star Wars ou je sais pas, là je suis un peu dubitatif.
Pareil, je suis dubitatif.
Parce que j'ai...
On s'en fout, va y avoir un septième Star Wars, mais qu'est-ce que vous demandez?
Non, c'est pas ça, si c'est un septième Star Wars à la sauce Disney,
Ça dépend, on regarde Marvel, ils ont racheté Marvel, ça va.
Ne quittez pas. Bientôt, les animateurs et l'invité vont revenir sur le sujet de la Formule 1. Mais il y a des choses plus importantes que la Formule 1.
Comme Star Wars 7.
Voilà. Et... Star Wars 7, quoi, les mecs.
Ça appartient à Disney. Non, mais vous vous rendez compte? Non, mais, je veux dire, on a tous dans la tête, hein.
Oui.
Le Box. Le logo oui. Lucasfilm.
Oui.
Et bon, long time.
Oh non. Ah merde, tu viens tout gâcher.
Ça veut dire que là, on aura le logo.
Buena Vista.
Ça y est, t'as tout brisé, Shinji. Revenons à la course. T'as tout brisé, là, ça y est.
Ça y est. Vous rendez pas compte, c'est l'information la plus importante de l'année. Je veux dire, Hamilton chez Mercedes.
Non, mais ce qui se passe, c'est qu'ils embauchent Peter Jackson pour les Star Wars.
Vous voyez, ce qui est très drôle, c'est que les gens qui nous écoutent ne vont nous écouter qu'à partir de mercredi soir. Donc eux, ils se sont pris dans la gueule tous les médias. Parce que là, évidemment, mercredi, nous, on sait de quoi vont parler les journaux mercredi. Enfin, bon, ils vont parler de Sandy et de George. Hein. Sandy et George, hein, ça on le sait. Mais nous on le vit, quoi. C'est génial, tu vois, le décalage entre le moment où on enregistre et on vit le truc en direct. Hein.
Ah, c'est, ouais, comme on dit, ça, je suis assis sur mon canapé, ça va pas bien là, la tête me tourne. Hein.
Non, mais c'est dégueulasse en plus. Nous on a investi dans un beau coffret intégral de la saga en Blu-ray. Hein.
C'est pas grave, je dis, on le rachètera.
Tu comprends qu'un geek, quand il y a marqué intégrale, c'est qu'il doit tout y avoir, tu vois. Il doit pas y avoir des trucs après, tu vois. C'est comme quand t'achètes l'intégrale d'Indiana Jones, c'est que 2 mois plus tard, on te dit, oui, on va faire un 4e film. Non! C'est pas possible! Bon, vous me direz, pour Indiana Jones, on peut enlever le 4e film. Mais quand même!
Voilà. Putain, mais je suis un peu sans voix, là.
Non, mais c'est ce qu'il nous fallait, vous voyez, le Grand Prix était chiant et tout. Comme quoi, vous voyez, hein, un Grand Prix chiant, ça donne un beau SAV.
Voilà. Tout à fait.
Allez.
Bon, on va se remettre de ces émotions.
Soufflons, revenons de nos émotions. Mmh. Hein. Gardons le portable à côté pour balancer plein de tweets parce que là, voilà. Hein. et reprenons calmement, avec le podium, avec la troisième place. Et sauf que lui, il est arrivé quatrième, forcément, puisqu'il a changé de place avec Weber. Mmh. Il a marqué 1069 points. C'est Lewis Hamilton, qu'on a mis quatrième, hein, Dino. Et toi, Jean-François, tu l'as mis troisième.
Oui. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, par rapport à la voiture. Weber, il avait une meilleure voiture du plateau avec celle de Vettel. Moi, je trouve qu'Hamilton a été comme... je trouve qu'il a été un peu poussif au début, suite à peut-être une mauvaise stratégie, et je l'ai trouvé être vraiment en vouloir un maximum à la fin de course. C'est pour ça que je l'ai mis troisième par rapport à Weber. Je trouve qu'il, comme on dit, il veut se montrer, ce son meilleur angle et ce son meilleur jour. Donc c'est pour ça que je l'ai mis troisième par rapport à Weber ou même à d'autres pilotes, quoi. Je l'ai trouvé vraiment jusqu'au boutiste. Il a été jusqu'au bout de sa course et jusqu'au bout de sa, avec sa voiture. Il a été à la limite de sa voiture, il pouvait pas aller plus loin. Voilà.
Dino?
Moi, je l'ai pas mis devant parce que j'ai pas eu l'impression qu'il pouvait faire vraiment plus que quatrième. Enfin, sans le problème de Weber. Moi, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai mis Weber. Quand même, voilà, il a pas eu de Kers, donc ça impacte quand même beaucoup sa course. Et que théoriquement, s'il avait eu le Kers, il aurait été deuxième et sans problème. Donc voilà, moi, Hamilton, j'ai même eu l'impression qu'il s'était un peu endormi sur le début de la course et qu'il ne s'était réveillé que quand Weber a eu son problème de Kers, donc voilà. Donc après, on a appris qu'ils avaient des problèmes avec les pneus tendres, mais voilà, il m'a pas laissé une impression transcendante sur cette course. Et toi, Shinji?
Non, sur Hamilton, je l'ai pas trop vu, en fait. Sincèrement, par rapport à d'autres, je saurais pas trop quoi dire.
Ah, c'est sûr que c'est difficile à dire. Ouais. Pour ce qu'on a eu.
Bon bah passons au deuxième alors.
Oui, passons au deuxième.
On aura peut-être plus de choses à dire.
Oui. Il a marqué 1462 points. Je l'ai mis deuxième, comme Jean-François. Dino, tu l'as mis premier.
Ah bah on n'aura pas grand-chose à dire sur lui alors.
C'est Sébastien Vettel.
Oui.
Non, bah premier, parce que qui peut faire mieux, enfin voilà, imbattable quoi, tout simplement. Voilà, surtout le week-end, c'est amplement mérité.
Bah, il a
quoi.
Été premier à toutes les séances.
Voilà, donc.
Ça m'a rappelé une réplique de Michael Schumacher qui disait qu'il avait fait le meilleur tour, grand pole position, il avait vainqueur le grand prix, et il y avait un journaliste qui avait dit Michael the race, et là c'est un peu total control of the race quoi. Il a fait ce qu'il a voulu, il est parti, on l'a plus vu quoi. C'est un peu ça.
Bah voilà, mais c'est du Vettel de 2011.
Il y a que
quoi,
le meilleur
c'est...
temps, je crois qu'il a pas eu.
Je crois que c'est Button qui l'a.
Ouais, c'est Button
voilà.
qui l'a.
Sinon, voilà.
C'est pas faute d'avoir essayé.
C'est vrai.
Mais à un moment donné, à la fin, il s'est dit bon, allez, j'ai 9 secondes. Là, je vais pas faire la con.
C'est pour ça que je l'ai mis deuxième parce que, bon, par rapport à notre pilote espagnol, voilà.
Passons à la première place. Il a marqué 1838 points. Et bien évidemment, bah, inversement, hein. Moi et Jean-François, on l'a mis premier. Dino, tu l'as mis deuxième. C'est Fernando Alonso.
Bah oui, moi je l'ai mis premier parce qu'il a fait une super course.
Moi je retiendrai quand même ce premier tour parce que bon, essayer de doubler une McLaren, parce que essayer de doubler une McLaren entre guillemets, c'est son job. Mais essayer d'en passer deux en même temps.
Mais en même temps, c'est pas surprenant. Déjà en Corée, il avait tenté le truc, il a tenté de dépasser les deux Red Bull en bout de ligne droite. Voilà, il a un feeling
c'est vrai
sur
que,
les.
Quand tu vois les trois de front, une Ferrari, deux McLaren.
Mais c'est vrai que Alonso, il a un feeling dans le close racing, dans la course rapprochée, il a un feeling et il arrive toujours à bien se placer et compagnie, donc c'est toujours impressionnant. Il fait un super début de course. Il profite aussi quand même globalement sur la course des problèmes des autres, quoi. À la fois des McLaren qui sont moins bonnes sur leurs pneus tendres, alors que lui visiblement est bien meilleur, et la Ferrari en course était très bonne. Et puis des problèmes de Kers, lui-même l'a reconnu. Hein, j'ai profité des problèmes de Kers de Weber. Ouais.
Oui.
C'est dommage que ce soit Weber qui ait des problèmes de Kers.
C'est bizarre.
Oui, c'est bizarre aussi. Ouais.
Mais il a quand même été dans les temps de Vettel. Enfin voilà, il y avait une belle bagarre de temps, même si on sentait que Vettel réagissait derrière à chaque fois, mais il y avait quand même un petit match qui était sympa. Donc voilà.
Là, je suis en train de lire un tweet sur une interview de Fernando Domenicali, là, le top team. Il dit, alors il fait une comparaison.
Stefano,
pardon. Il dit, il dit que Red Bull a la meilleure voiture, il l'admet, hein, c'est clair, mais que Ferrari travaille dur pour avoir. Hein. Mais il fait une comparaison en disant, regardez en 82 à la Coupe du Monde de foot, l'équipe d'Italie.
Il a déjà fait ça en début d'année.
Il l'a pas fait. Ah, il l'a fait aussi.
En s'inspirant l'équipe d'Italie.
Ouais, de 82. Il a dit que l'équipe d'Italie en 82 n'était pas la meilleure équipe, mais ils avaient quand même gagné la Coupe du Monde. Donc, voilà, ouais. C'est une façon de motiver les gens.
Mais c'est déjà la preuve qu'il a eu raison, parce que quand on regarde, ils ont fait un mauvais début de saison, comme l'Italie avait fait un mauvais début de mondial. Et là, pour le moment, ils font une belle saison finalement dans l'ensemble. Même s'ils sont pas champions, ils pourront quand même être contents et heureux de cette saison. Enfin, avec le recul, je pense que ça restera une année très positive quand même.
Bah, il pose des pierres pour la prochaine saison, je pense aussi.
Bah, en espérant. C'est surtout ça qu'il faut espérer, c'est que même si Alonso, bon, je souhaite qu'Alonso soit titré cette année, mais même si Alonso n'est pas titré, ils ont quand même posé des bases qui
peuvent. Et des bases, solides, je trouve.
Oui.
Bah, ce qui est fait cette année, nous disons, va évoluer l'année prochaine, mais je trouve qu'ils sont vraiment des bases solides et que l'écart sera sera réduit par rapport à la Red Bull de cette année, quoi. En tout cas, je l'espère, parce que bon, là, c'est difficile. Hein.
Allez, on va passer au classement. Et il y a, au classement du SAV, il y a encore du suspense, hein, puisque Alonso est premier 230 points, devant Vettel 231. Et il n'y a plus que Hamilton qui est encore en course avec 187 points.
D'accord.
Au classement des équipes, Red Bull 369, Ferrari 329, McLaren 326, Lotus 278. Dans l'autre classement, ils ne sont plus que 5, et peut-être même qu'ils ne seront plus que 2 après Abu Dhabi.
Ils sont déjà plus que 2.
Oui, dans le...
Soyons réalistes.
Mathématiquement, ils seront sans doute plus que 2 après Abu Dhabi. Vettel 240, Alonso 227, Raikkonen 173, Weber 167 et Hamilton 165. Chez les constructeurs, et là le titre peut tomber peut-être dès Abu Dhabi. Red Bull 407, Ferrari 316 et McLaren 306.
Pour Red Bull, ils seront champions s'ils marquent 5 points de plus que Ferrari.
Oui, c'est plus que possible.
Donc s'ils marquent 5 points de plus ou... Non, s'ils ne cèdent pas plus de 5 points à Ferrari.
On va passer au fait marquant. On vous demandait donc, comme d'habitude, quel était le fait marquant du Grand Prix de Corée du Sud 2012. Vous avez été 81 à voter. Merci à vous. Hein. De même, merci à tous ceux qui ont voté pour le top 10. Et Dieu que c'était chiant cette semaine. 3e place, 8 votes. Vettel, l'oublié du week-end, 9,88%. 16 votes, la belle écharpe en astroturf de Lewis, 19,75%. Mais victoire écrasante, hein, 57 votes, 70,37%. Fernando Felipe is faster than you.
Ah, c'est ce qu'on appelle la belle consigne d'équipe.
Donc Jean-François, tu as l'énorme chance, et c'est une énorme chance cette semaine, de choisir le premier choix au fait marquant. Parce que vu le nombre de faits marquants qu'il y a ce week-end, voilà.
Ah bah je vais remettre dans ma fibre cardiaque. Je vais prendre Grosjean. Retour à la raison pour Grosjean. Comme je répète, hein, il a fait un super Grand Prix et je trouve qu'il est revenu un petit peu à la raison et un peu à la réalité. Voilà.
Bah je vais partir sur Vettel, mais je vais mettre Vettel nous dégoûte encore cette semaine.
Et c'est pas terminé.
Non, arrête de dire
pas de malheur. Et toi, Dino?
Alors Sylvie, est-ce que tu es devant ton clavier là?
Oui.
Oui, alors est-ce que tu pourrais bloquer ta majuscule, s'il te plaît?
Oui.
Et tu tapes exactement ce que je te demande.
Je t'écoute.
Alors attention, Z.
Oui.
Z.
Oui.
Z. 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 Et là, tu passes en minuscule.
Ouais.
Z.
Ah. Z. Je pensais qu'il y aurait des petits points.
Z. Z.
Ouais.
Z.
Ouais.
Z. Encore un Z.
Ouais.
Allez, encore un ou deux Z en plus.
Je t'enfile deux.
Ah, merci. Et pour elle, tu fais un espace.
Ouais.
Un point d'exclamation.
Ouais.
Point d'exclamation.
Ouais.
Point d'exclamation.
Ouais.
Point d'exclamation. Mmh. Et point d'exclamation.
Je t'enfile deux en plus, hein, comme la bouche.
Ah, merci. Voilà, voilà encore une émission où il faut écouter le podcast avant de voter. Voilà.
Donc, quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix d'Inde?
Ah, ça va être bon, ça.
Vous avez le choix entre retour à la raison pour Grosjean, ou bien Vettel nous dégoûte encore cette semaine, ou bien... C'est étonnant parce que on met Z et pourtant c'est plutôt un râlement qu'on fait pour le sommeil. Sur notre rôle paradoxe, on va passer à un moment important de l'émission. Parce qu'il y en a quand même cette semaine. C'est le concours.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Position. Franchement, si vous avez compris les règles, vous êtes déjà un champion.
Alors, le concours tape à position. Rappelez-vous, il y a 15 jours maintenant, la question nous était posée par Ludovic et elle était la suivante. Combien de Neran Kartikeyan allongés faudrait-il au minimum pour couvrir la distance d'un tour de circuit de boude? Et je me rappelle, Shinji, qu'à cette époque, tu avais soigneusement choisi cette question parce qu'il n'y avait pas n'importe quoi non plus à gagner. C'est pas juste, comme d'habitude, on gagne un papier pour le tirage au sort en fin de saison. Non, là, c'était vraiment pour gagner quelque chose, gagner un lot spécial mondial de l'auto. Avec deux trucs utiles, deux trucs bon bof, et deux trucs franchement je les cache et si même je pouvais je les brûlerais parce que j'ai trop honte, même de Star Wars 7 c'est mieux à côté.
Voilà. C'est quoi, il y en a un co-test ?
Alors, bon, Shuji, moi j'ai un petit problème sur cette question. Mm-hmm. Je me dis quand même, c'est une question, alors on va tout de suite remercier les 7 personnes qui auraient répondu, qui ont répondu à la question, qui ont posé des questions et qui ont cherché. Mais j'ai envie de dire, Shuji, on organise quand même ce concours depuis maintenant, depuis le début du jeu, depuis le début du SAV. On leur a fait gagner plein de trucs. On est plutôt généralement coulant dans les réponses et compagnie. On accepte les réponses un peu vagues quand le raisonnement y est et compagnie. Mais là, j'ai envie de dire que pour moi, il n'y a aucune bonne réponse. Parce que quand même, on propose à la clé quand même un cadeau qui est génial.
Carrément.
Un cadeau, qui est un lot spécial du mondial de l'auto. Un truc, je le rappelle, vous pouvez gagner et ça vous sauvera peut-être la vie. Et en même temps, je trouve les gens, certes, ils font un effort. Certains nous font des réponses très rigolotes. Comme par exemple, mesurer la taille en concombre. Parce que il s'est fait traiter le concombre, donc on a comparé la taille de la
concombre.
Comme comparer la taille au 43e de la figurine de Kartikeyan, parce que c'est pas précisé dans la question. Mais en même temps, j'ai envie de dire, on attend quand même une réponse précise.
Oui.
Et moi, je suis désolé, mais pour moi, il n'y a pas de réponse précise. Parce que c'est vrai que sur Internet, il y a plein de sites différents qui vous donnent des tailles différentes, 1m67, 1m69, 1m70, 1m71.
Mais on avait dit que les gens peuvent juste préciser quoi, d'où ça venait, quoi.
J'ai envie de dire, à un moment donné, on ne peut pas non plus accepter des réponses qui sont bonnes comme ça, avec un super cadeau à la clé, juste comme ça, alors que les gens, ils n'ont même pas eu le réflexe d'aller voir sur le site officiel de l'écurie du pilote.
Moi, écoute, c'est comme tu veux. Si tu veux, on peut désigner un vainqueur à la question, mais ne pas attribuer les cadeaux si tu ne veux pas. Parce que les cadeaux, c'est toi qui les file.
Moi, sincèrement, on va être gentil. On va quand même donner des cadeaux. Parce qu'il y a eu un effort de réflexion de compagnie, plein de gens qui ont mobilisé. Mais sincèrement, vous êtes à deux doigts de la correctionnelle. Vous avez failli pas avoir les cadeaux parce que vous allez chercher des réponses d'accord, mais vous n'avez pas forcément le réflexe de
alors,
dire.
On leur file les cadeaux. Ou alors,
on n'aurait pas un meilleur site.
Ou alors, on leur file les cadeaux, mais ils n'ont pas de ticket pour le truc final.
Non, ils vont gagner les deux.
D'accord.
Mais quand même, je vous préviens, la prochaine fois qu'on vous donne des calculs, vérifiez les données. Ne vous contentez pas simplement de nous dire, tenez, on va vous donner les trois tailles différentes, on va faire les calculs avec les trois tailles, et puis, comme ça. Donc, sachez quand même que la longueur officielle du Grand Prix... Alors, je vais quand même, dans les questions, choisir, Shiji, parce que, bon, encore sur la taille de Neran Kartikeyan, peut y avoir un doute. Il peut y avoir des sources divergentes. On peut ne pas avoir le réflexe d'aller voir sur le site de HRT. Parce que visiblement, on est un cartier, on n'a pas de site. En même temps, il met tout son argent dans son baquet. Donc c'est un peu dur de trouver sur Internet. Mais quand même, pour la longueur du circuit, il y a quand même deux sources officielles concordantes qui s'appellent le site de la Formule 1et le site de la FIA qui donnent la longueur de 5125 mètres. Donc je tiens à dire tout de suite que tous ceux qui m'ont fait un calcul à partir de la distance 5141 mètres, je n'accepte pas la réponse. Tu es d'accord avec moi, Shinji, je pense.
Toi, on dirait 1m4000 là.
Ah non, mais c'est à un moment donné, il faut bien comprendre. Je suis désolé, mais il faut bien comprendre. Qu'à un moment donné, quand même, la distance en circuit, il peut pas y avoir de doute. Et la seule source officielle pour la distance en circuit, c'est la Formula1.com ou la FIA.
Ah, ok.
Si la distance, c'est pas 5125, je ne compte pas. Oui, je sais, je fais mon chieur. Vous avez raison, chers auditeurs. Je suis en manque d'autorité.
Si vous voulez gueuler sur quelqu'un, c'est sur Dino.
Donc tout ça, ça nous laisse une vie de trois bonnes réponses. Alors, juste pour le calcul, ça fait 5125 divisé par 1,68. Ça fait 3050 Neran Kartikeyan. Oh, c'est qu'avec toutes mes conneries, là, j'ai perdu ma feuille. Ah, non, elle est là. Ouais, ça fait 3050,59 Kartikeyan, ou comme dirait Globen, ça fait 3050 Kartikeyan et une mimimètre.
Oui.
Voilà. Alors, Shinji, il nous reste donc trois réponses qui sont dans les clous avec la bonne distance du Grand Prix. Alors, les questions... Alors, je peux pas quand même m'empêcher de lire une réponse, qui est la réponse suivante. La question proposée laisse la possibilité à plusieurs axes de réflexion. En effet, elle ne précise pas si on doit prendre comme référence la taille grandeur nature de ce cher Kartikeyan, car au fil de mes recherches, j'ai trouvé différentes tailles qui varient beaucoup, voire énormément. Je m'explique. Sur certains sites, il nous propose une version de Kartikeyan réduite à une échelle au 43e, ce qui fait qu'il mesure environ 3,93 cm, ce qui nous donne comme données le circuit mesurant 5 km 125, soit 512 000 500 cm, et Kartikeyan 3,93 cm, soit 512 500 divisé par 3,93, auquel on obtient 130 417 Neran Kartikeyan, 13. En poussant un peu ma réflexion, j'en suis vite venu au fait que cela représentait beaucoup, mais vraiment beaucoup, le Kartikeyan. Mais en même temps, c'est vrai que le raisonnement n'est pas faux, Shinji. Il n'y a pas deux Neran Kartikeyan. Donc la question est nulle et non avenue, puisqu'on peut pas mettre plusieurs Neran Kartikeyan l'un à la suite de l'autre. Par contre, ces miniatures, on pourrait. Mm-hmm. Alors, ça nous laisse trois questions, Shinji, et Jean-François, vous allez pouvoir vous entraider pour départager ces trois questions. La première étant la suivante. Si vous voulez passer votre week-end avec à deux personnes, à Abu Dhabi, en passant quatre nuits à l'hôtel Emirates Palace, 6 dans une chambre Pearl, et la formule petit déjeuner, ainsi que deux jours sur le circuit dans le Marina Grandstand, quelle somme allez-vous débourser en ne prenant en compte que ces deux facteurs, l'hôtel et les deux jours sur le Grand Prix?
Thématique pognon cette semaine. Hein. Ouais. Donc, après tout, hein, moi je...
Alors ensuite, question suivante. Alors c'est une dissertation. À l'issue de cette quatrième édition du Grand Prix, les organisateurs se sont enfin rendus compte que le circuit d'Abu Dhabi n'était pas fait pour accueillir un Grand Prix de Formule 1. Mais ayant un contrat avec la FOM à honorer au lieu de laisser nos chers 24 pilotes à rien faire, ils ont décidé d'y organiser un triathlon en adaptant un peu le circuit. En effet, la grande ligne droite deviendrait ainsi une piscine pour la partie natation. Bref, après ce blabla autour du contexte, voici ma question. Sachant que les pilotes nagent le 200 mètres aussi vite que Yannick Agnel à la finale des JO de Londres, mais aussi qu'ils atteignent en courant facilement le record du 100 mètres du Usain Bolt et qu'ils parcourent 100 km à vélo à l'allure de Robert Marchand, qui est un centenaire, il faut le dire. Combien de temps mettront-ils pour faire un tour du circuit avec ce triathlon? Le circuit étant divisé en trois parties égales.
C'est compliqué, ça, déjà. C'est plus compliqué.
Et enfin, dernière question. Vous voulez aller au Grand Prix d'Abu Dhabi. Vous vous y rendez certainement en avion. Quelle sera la distance et la durée du voyage entre l'aéroport d'Abu Dhabi et le circuit de Yas Marina en prenant la route la plus courte? Google Maps est ton ami. Alors, Shinji.
Jean-François, tu as...
Le prix du week-end.
Moi aussi, je suis tenté, parce que la deuxième est un peu compliquée, et la troisième, ça risque aussi de donner beaucoup de résultats différents, et puis ceux qui sont sur iPhone avec Plan et risquent d'avoir des mauvais résultats. Donc, pour que tout le monde soit à égalité, ouais, plutôt la première. Et puis comme ça reste dans notre thématique plein de frics cette semaine.
Alors, on va remercier quand même Maël pour sa question et donc sa digression, hein, sur les miniatures de Neran Kartikeyan. Mmh. Un calcul fort judicieux, je trouve, Maël. Bravo. Mmh. Qui nous révèle que si on faisait un triathlon sur le circuit de Yas Marina, ça prendrait au pilote environ 22 minutes et 49 secondes. Mmh. On va remercier également Adelin pour sa réponse, pour sa question sur le Grand Prix d'Abu Dhabi, la distance entre l'aéroport et le circuit, qui est de 18,5 km. Soit 37 minutes en prenant la E10, pas la Formule 1, ça n'a jamais existé, mais la route européenne E10 d'Abu Dhabi.
Bien sûr.
Bravo, Shinji, tu as noté.
Ils sont tellement riches qu'ils ont des routes européennes.
Voilà. Et donc, nous allons féliciter Quentin. Bravo. Tu as gagné ton nom sur un ticket et tu as gagné ce lot. Je sais pas si je le décris, le lot, Shinji, ou si je lui laisse la surprise.
Si, il faut décrire, les gens, ils ont...
Alors,
tu dis, les lots, enfin, le paquet de lots.
Bravo, Quentin. Tu as gagné un magnifique truc qui fait la lumière quand t'es perdu dans le noir pour pouvoir mettre ta clé dans ta serrure et qui est aux couleurs de l'assurance, la Matmut.
Elle assure.
Bravo, Quentin. Tu as gagné un superbe stylo total de couleur bleue. Même si on ne sait pas de quelle couleur il est écrit, c'est l'emballage qui est bleu. Bravo, Quentin. Tu as gagné un autocollant. J'aime ma Dacia. Que même si tu n'as pas de Dacia, tu pourras dire j'aime ma Dacia.
Ah, et ça pourra te sauver la vie.
Voilà. Et la deuxième truc pour te sauver la vie, c'est que si jamais tu n'as pas de surface où tu peux mettre un autocollant, c'est pas grave, il y a une surface métallique, tu pourras mettre le magnète. J'aime ma Dacia. C'est-tu pas un beau cadeau? Et enfin, les deux cadeaux qui ne servent strictement à rien, qui ne te sauveront pas du tout la vie, qui, sincèrement, on se demande même pourquoi Dieu l'a inventé. Les étiquettes de test proposées par Skoda, il y en a deux. Tu es obligé, si tu as une voiture, d'avoir deux étiquettes de test maintenant parce que les flics sont trop radins pour te le fournir. Non, il en faut deux.
Ah bon, il en faut deux.
Oui, il en faut un, et puis comme
comme on est tous
si tu t'en sers d'un, il faut qu'il t'en reste un pour le contrôler.
Ah d'accord.
Donc il en faut deux en fait.
C'est tordu comme raisonnement.
Donc en tout cas, tu as gagné deux éthylotests offerts par Skoda, et surtout le truc le plus inutile, qui ne sert vraiment à rien, à tel point que ça sert à rien, que c'est sponsorisé par la FIA, c'est le magnifique gilet jaune haute visibilité que tu pourras ressembler à un homme de la DDE comme ça sur le bord de l'autoroute A23. C'est-il pas magnifique, c'est-il pas joli? Eh ben tout ça, c'est le SAV de la F1 qui te l'offre. Bravo Quentin, tu nous envoies ton adresse sur concours@savf1.fr et nous te ferons parvenir tous ces magnifiques cadeaux, même si les deux derniers sont pas très utiles, dans les plus brefs délais. Tu es heureux,
bravo, Quentin.
Nous pouvons le lire sur ton visage. Vous comprenez pas maintenant. On vous a demandé vraiment d'être très précis dans vos chiffres, parce que c'est quand même important. Il y a quand même pas du lot de merde, quoi. Un autocollant et un magnète. J'aime ma Dacia. Sincèrement, ça a autant de prix qu'une Dacia.
Voire plus.
Donc voilà, bravo Quentin. Pour répondre à la question de Quentin, c'est concours@savf1.fr. Attention, vous n'avez qu'une semaine pour se faire, jusqu'à mardi prochain, ou environ 19h maximum. Voilà. Pareil, hein, là, théoriquement, il n'y a pas de source, puisqu'il y a des sites officiels qui existent, donc voilà, il suffit juste de chercher. Si vous voulez passer votre week-end à deux personnes, à Abu Dhabi, en passant 4 nuits à l'hôtel Emirates Palace, 6 dans une chambre Pearl, et la formule petit-déjeuner, ainsi que 2 jours sur le circuit dans le Marina Grandstand, quelle somme allez-vous débourser en ne prenant en compte que ces deux facteurs, l'hôtel et les 2 jours sur le Grand Prix?
Messieurs, on va passer à la prochaine course. Comme tu l'as dit, c'est le week-end prochain.
C'est demain.
C'est oui, quasiment. Une course qui s'annonce merveilleuse, hein. C'est bon, quoique, on ne sait jamais.
Ça commence par mer, mais ça finissait pas par veilleuse.
Et donc oui, le week-end prochain, nous serons à Abu Dhabi. Et donc, dans le cas purement hypothétique où la course serait pas terrible, parce que bon, ça n'arrive jamais à Abu Dhabi, non.
On ne fera pas de SAV.
Parce que ils nous l'ont dit, hein, les commentateurs. Hein. Ce qui est génial à Abu Dhabi, c'est l'accueil.
Oui. Très bien accueilli.
Très bien accueilli, ça c'est vrai. Mais si vous vous faites chier, il y a des chances que ça arrive. Eh bien, le SAV est là. Et surtout, Jean-François est là.
Alors,
Jean-François, c'est à toi. As-tu fait sept choses à faire à la place du Grand Prix d'Abu Dhabi?
Alors, moi, je proposais d'aller voir le Virgin James Bond, Skyfall, qui est très bien.
Et vous allez le fermer, puisque je n'ai pas encore vu le dernier James Bond.
Ah, le moment où il meurt. Ah,
c'est... Ça vaut pas Marion Cotillard dans Batman. Hein.
Non, c'est vrai.
Alors soit après regarder l'intégrale des experts, hein, Las Vegas, ça peut aider. Se faire un bon lapin à la moutarde.
Oui, pourquoi pas?
Pourquoi pas? aller cueillir des champignons en forêt, puisque c'est un peu cette saison. Faire un petit footing en forêt aussi, ça peut être aussi de saison, hein.
Vous pouvez même d'ailleurs faire les deux, faire le footing et aller chercher des champignons. Voilà.
Attention, si vous êtes près de New York, vous pouvez aussi aller chercher pêcher des voitures.
Oui.
Ou des transformateurs si. Ou des
plein d'autres de
des pneus de d'allons béton.
Tu sais que j'ai quand même entendu une fille aujourd'hui te dire à la télé, sérieusement, je crois que c'est sur BFM TV, la fille elle nous a dit sérieusement, c'est la plus grosse catastrophe qu'elle ait jamais connue New York.
Non. C'est pas vrai.
À un moment donné, tu regardes ton écran.
C'est-à-dire, c'est d'un point de vue humain ou d'un point de vue matériel?
Oui, je sais pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que t'entends par la plus grande catastrophe? Toi, t'as raté un épisode. Comme par hasard, c'est l'épisode final, tu vois. C'est plus important.
qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que j'avais mis sur mes fiches? J'avais dit quoi? Regarder par exemple un autre DVD, Driven avec Stallone.
Avec les commentaires du service après-vente de l'F1 que vous retrouverez sur www.savf1.fr.
Avec Memo, l'homme qui parle avec le nez.
Oui. Ouais. Nous avons fait les commentaires. Voilà, vous mettez le DVD et en même temps vous lancez le DVD, vous lancez le commentaire audio sur votre ordinateur ou sur votre iPhone ou sur ce que vous voulez. Et là vous passez le film avec nous. C'est un moment
mythique.
What else?
Mythique.
Ouais. Et on en fera peut-être un cet hiver. On voulait en faire un peu cet été, puis on n'y a pas pensé. On en fera peut-être un.
Faut trouver le bon film.
Ouais,
c'est ça le truc. Faut trouver le bon film.
Star Wars. La course dans Star Wars.
Ah oui, pourquoi pas, ouais.
C'est les 3/4 d'épisode 1, de toute façon.
Et enfin, regardez un dernier film, pour moi, qui est mythique, c'est quand même Le Mans avec Steve McQueen. Voilà. Ah, oui. Voilà. Et voilà.
Voilà, pour le coup, si vous avez des commentaires au-dessus, c'est peut-être pas forcément mal. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte. Donc, c'est pas gênant pour la compréhension du film.
C'est vrai.
Il y a beaucoup de bruit, mais il y a beaucoup de fureur, mais je trouve que c'est un très bon film.
Il est jouissif, ce film.
Ah, oui, il y a la phrase.
Je me rappelle plus trop de la phrase.
La course, c'est la vie.
Ah oui.
Non, je crois que c'était le moment où tu avais, Steve McQueen qui était dans les garages, là, puis à un moment donné, il croise la fille, ouais. Il la regarde, et là, station, super phrase, et il dit, salut. C'est la plus grosse ligne du texte.
Ah oui, c'est clair. Hein.
Enfin, après, la phrase, la course, c'est la vie.
Non, mais c'est que de l'attente.
C'est le seul film où le speaker a le plus de texte.
Donc j'avais trouvé ça de choses à faire quand, si on n'est pas un fan de Formule 1.
Ouais. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal.
C'est vrai qu'à la limite, regarder Driven et regarder Le Mans, si t'es pas fan de Formule 1, rien t'empêche d'être fan de oui. films de merde ou des 24 heures du Mans.
Ouais, moi, j'aime bien aussi les 24 heures du Mans. Hein. C'est quand même une course mythique. Hein.
Oui. Mm. Non, mais voilà, mais tu peux avoir des gens qui sont fans de... D'ailleurs, je pense qu'il y a souvent des fans des 24 heures du Mans qui ne sont pas fans de Formule 1.
Bah, c'est un peu...
C'est vrai.
C'est un peu opposé. Hein. C'est quand même deux disciplines complètement opposées pour moi. Mm. Voilà.
Sinon, question pronostic. D'accord. Dino.
Hamilton.
Ah, je mettrai Alonso pour la beauté du suspense.
Ouais, pareil, j'ai envie d'Alonso. Il faut qu'il gagne, merde, sinon on va se faire.
T'as envie d'Alonso. Bravo, Shinji. Alors déjà qu'on apprend que Fab il a envie de Button, bah maintenant t'as envie d'Alonso.
J'ai envie qu'il gagne.
Tu fais ton coming out. Enfin, on est au mois d'octobre, mais oui. Quand même.
On arrive à la fin de cette émission.
Ouais.
Super.
On en profite, Shinji, parce que, bon, on en a un peu parlé la semaine dernière, mais vraiment pour vous remercier tous, parce que ce qui était dans l'air il y a une semaine, est aujourd'hui devenu concret. Nous avons reçu les invitations, aujourd'hui même. Nous serons présents lors de la cérémonie des Golden Blog Awards à Paris, le 14 novembre, au soir. Donc, suivez-nous sur Twitter, #SAVF1, parce qu'on va sans doute pas mal tweeter. Voilà, raconter des conneries, mettre des photos, ce genre de choses. Voilà. Et on tient vraiment à vous remercier parce qu'on est on est donc retenu dans les 10 premiers
de la catégorie.
Voilà, on s'y attendait pas. On est le seul podcast de sport. On est aussi l'un des seuls podcasts audio. Il y a beaucoup de trucs vidéo. On est l'un des seuls podcasts audio. Voilà, et tout ça on le voit grâce à votre mobilisation. Voilà, donc on va remercier tous ceux qui ont voté pour nous. On va notamment remercier beaucoup parce que c'est quasiment lui qui fait toute la promo sur Twitter. C'est Fab qui tous les jours a mis un tweet pour vous encourager à voter, donc merci Fab, merci aussi Elder qui a pas mal voté et qui a pas mal retweeté, merci Steph Core, merci tous les chroniqueurs et merci vous qui avez voté pour nous et qui avez rendu cela possible. Voilà, si on gagne, on en retirera tout le mérite, on vous donnera rien. Là, on vous remercie. Mais... donc là c'est le jury qui vote jusqu'au 5 novembre avec le partenaire qui est Nuance, voilà, et puis donc on aura le verdict le 14 novembre à l'hôtel de ville de Paris.
Moi, en tant qu'auditeur fidèle, on est vraiment très fiers de vous d'avoir fait ce podcast sur la Formule 1 avec vraiment un ton vraiment décalé et qui est vraiment très très bien. Voilà, c'est pour ça qu'on vote pour vous.
Bah merci.
J'ai juste à rajouter un petit mot, je voulais aussi parce que c'est la fin de carrière de Coulthard cette année. Il arrête vraiment la course.
Il y aura Schumacher peut-être aussi.
Ouais, mais bon, je
me sens obligé de préciser, désolé.
Moi, parce que j'aimais bien ce pilote aussi, donc je voulais juste lui donner un accessible pour vraiment sa belle carrière qu'il a fait, à la fois en DTM et aussi en Formule 1. Voilà.
Jean-François, merci de nous avoir accompagnés.
Merci.
C'était un plaisir.
Merci à vous de m'avoir invité, mais j'étais vraiment très content de participer à votre émission.
Dino, est-ce qu'on a des places libres d'ici la fin de saison? Il reste plus quoi?
Eh ben oui, il y a deux places libres. Il y a la place pour le Grand Prix des États-Unis et le Grand Prix du Brésil. Donc dépêchez-vous, hein, c'est dans les prochaines semaines. Même si vous avez déjà participé cette saison, n'hésitez pas quand même à vous porter candidat puisque on ne sait pas s'il y aura de nouveaux candidats. Donc n'hésitez pas si vous avez envie lors des deux derniers Grands Prix. Voilà, en sachant que bien évidemment, s'il y a des nouveaux candidats, les personnes qu'on n'a jamais reçues, elles sont prioritaires. Mais n'hésitez pas. Si vous avez envie de venir sur les deux derniers Grands Prix, à vous porter candidat, contact@savf1.fr.
Dans deux semaines, il y aura un mag. Hein. Si vous voulez nous poser une question, n'oubliez pas, il y a l'adresse à répondeur@savf1.fr.
Ouais, profitez-en, ça sera peut-être la dernière où on ouvrira vraiment le répondeur, parce que le dernier mag sera peut-être un peu spécial.
Voilà, on ne sait pas encore
ce qu'on fera, mais ça sera peut-être un peu plus bilan de la saison et compagnie, donc...
Sinon, on vous rappelle que le SAV de la F1, c'est sur Facebook. Non, on peut le dire, ouais. Vu que les autres s'en occupent, c'est bien. C'est sur Twitter, le hashtag SAVF1. C'est sur Podcast France.
Ouais.
C'est sur iTunes.
Ouais. Ouais. Et on pense à mettre 5 étoiles.
Bien sûr.
Parce que le SAV de la F1, c'est...
le Ritz des podcasts.
Bravo.
Et n'oubliez pas, la F1 sur Internet, c'est sur...
fanf1.com.
Il t'a grillé.
Oui, non, j'étais en train de penser à autre chose.
Il t'a grillé quand même. Hein. Allez, on vous souhaite à tous une bonne course, hein, puisque c'est dès dimanche. Et n'oubliez pas, la nouvelle du soir, la nouvelle de la semaine, la nouvelle de l'année, Star Wars 7 en 2015. Et sur ce, je vous laisse sur ces quelques phrases de poésie de Dino.
C'est effectivement quelques phrases de poésie, parce que j'ai pioché dans un poème. Avant tout, en m'inspirant du Grand Prix, de l'impression que ça m'a laissé, cette sensation de vide extrême, cette envie de dormir, ce sentiment profond d'ennui pendant la course. Et en même temps, je pense que ces quelques lignes vont aussi, peut-être, du fait de son auteur, peut-être... comment dire, correspondre un peu à l'état d'esprit des gens qui nous écoutent et qui ont sans doute appris, s'ils sont encore vivants, parce que peut-être certains vont se couper les veines en ayant appris cette nouvelle, que Star Wars allait revenir. Donc on peut comprendre qu'il y en a certains qui soient déprimés, qui soient gagnés par le spleen. Et quand on parle de spleen, forcément on parle de...
Baudelaire.
Oui, tout à fait, de Charles Baudelaire.
J'ai eu du mal, mais je l'ai dit. Je l'ai dit, Baudelaire.
Et donc voilà, quand on parle du spleen, on parle de Charles Baudelaire et Charles Baudelaire, les fleurs du mal, voilà, c'est l'un des plus grands poètes français. Donc voilà, il faut rendre hommage. Et il a écrit ces quelques vers. L'ennui, fruit de la morne incuriosité, prend les proportions de l'immortalité.